faire un tout petit truc d'intro pour
oui, d'accord. Sens. D'accord.
Comment est-ce que je vous présente? Bien, on va commencer déjà avec un petit peu de retard et je vais donc presque tout de suite passer la parole à Ralph Jean-Claude Bauer qui est enseignant à Strasbourg et dirige l'Institut Rayessara, un institut pour donc qui va développer le thème toujours dans notre cycle sur aliénation liberté dans le travail. Donc là on est à la deuxième séance sur ce cycle là. Je vais faire un petit rappel. Simplement, petite question pratique. Celles ou ceux qui n'auraient pas laissé leurs coordonnées, soyez gentils de le faire. Entrez, là, il y a une feuille pour qu'on puisse vous tenir informés de la suite. Séminaire, l'invitation, on rendra tout un peu plus tard. Bon. Donc, nous avons déjà eu la semaine dernière, alors je ne sais pas, il y en a qui étaient présents, d'autres pas, c'est un peu difficile de résumer où on en est, mais la semaine dernière, donc, on a déjà commencé à réfléchir à dire que ce thème aliénation et liberté dans le travail, donc avec Leonard Boll, qui nous a réfléchir sur. Il démarra le Gemara Sanhedrin, la page 99b, sur la place de l'effort dans la vie de l'homme. Comme un thème qu'on avait déjà un peu discuté, qui est venu dans plusieurs questions, c'est l'effort dans la vie de l'homme, est-ce que c'est une finalité ou un moyen? Alors, une finalité, il y a l'effort, une finalité. Oui, on a un peu discuté de ça parce qu'on disait que. Dans le sens où l'homme peut se découvrir, se construire, se dépasser. Donc il peut y avoir en ce sens-là une valeur, une finalité en soi dans l'effort. On avait dit aussi moyen, l'effort comme moyen, ça c'est le sens le plus courant bien sûr, sens commun, c'est un effort en vue de quelque chose. Bon, là reste à savoir de quoi, quel est ce quelque chose. On en a un petit peu parlé. Alors, on a essayé de réfléchir, d'articuler ces sens, finalité, moyen, à partir d'un passage de Job, qui est cité justement dans cette Gemara Sanhedrin, et qui nous disait Adam, l'amal du lal. Donc, l'homme, littéralement, pour être créé et engendré, pour le amal. Donc, tout le problème était de savoir exactement quel était le sens de ce terme amal, qui peut être effort, un travail, on va voir, il y a d'autres sens que la Gemara nous propose. Très rapidement, donc, sur le premier sens, on prend la Gemara, le sens d'effort, et aussi une lecture qui nous faisait faire dans les commentaires, la discussion qu'on avait, Rabbi Sadia Gaon. Donc, le terme d'effort est repris donc, dans la Gemara par Rabbi Eleazar qui dit que le Hamal, donc ça, en tant qu'effort, c'est une nécessité de la vie à tous les niveaux. Au niveau réel, concret, c'est le terme de Melacha, qu'on a souvent parlé ici. Donc il y a un Hamal, un effort à faire quand on est dans dans le niveau de la Melacha. La Gemara introduisait un autre niveau, parlait d'Amal Sikra, donc un effort de discussion, de conversation, mais on l'a un peu pris dans le sens d'un effort dans le niveau social des relations. Et puis, bien sûr, la Gemara nous faisait réfléchir sur une articulation entre les dimensions, on va dire, verticales, Kodesh dans le monde, et dimensions horizontales, les relations avec les autres, et dans le terme de Amal Torah aussi, qui était abordé, donc la Gemara nous proposait aussi de réfléchir à ce terme d'effort. Alors, là, c'est donc terme une nécessité, à plusieurs niveaux, mais une nécessité. Donc, d'où la question qu'on a dans notre séminaire, est-ce que cette nécessité est une aliénation? Oui, c'est donc une aliénation, il faut faire cet effort, on est contraint, obligé de le faire, mais je peux décider vers quoi tend mon effort, comment l'orienter, dans quel sens, en quelle direction, on a vu aussi dans cette démarra même que celui qui pouvait se débarrasser d'un certain nombre d'enveloppes, de scories, il peut complètement orienter, diriger son effort, le dépenser donc dans Amal Torah, l'effort qui est l'articulation vraiment des différentes dimensions du monde. Alors il y a une autre lecture qui va être bref, mais pour un peu rappeler le fil, de laisser à Jean-David le temps d'arriver. donc il y a une autre lecture qui nous est proposée dans, sur le même verset, Adam et Amalina, l'homme est créé de l'effort. Alors là, on reprend plutôt l'acception d'Amal dans le sens de plusieurs commentateurs du Mar, on a vu notamment Ibn-Ezra, et surtout le Rambam. Donc Amal est présenté comme, plutôt comme une notion de souffrance. Et donc là, même dans un sens très singulier que le Rambam nous a sur lequel nous orientait, qui est que l'homme est à la source de son malheur et donc de son amal, donc du mal qu'il se fait, c'est-à-dire il est lui-même à la source de son malheur. Donc ce qui nous a conduit un peu à déplacer un peu le problème du rapport aliénation-liberté, donc l'aliénation dans ce sens-là, est que si je ne fournis pas un effort, un amal, alors je subis le malheur, le amal, que je peux me créer, que je me donne. Donc la liberté, en revanche, ce serait donc de choisir mon amal, mon effort, de sorte que, en tant que Melacha, en tant que Amal Sikra, cet effort me construise et me permette de dépasser les malheurs que je pourrais éviter, donc les éviter. Et donc, chez celui qui s'extrait, alors, sa copie, cette expression peut paraître un peu bizarre, c'est parce qu'il y a une expression dans la Gemara qui dit qu'il y a le Amal, l'homme dans son effort, il est comme une meuleuse, il débarrasse pour raffiner, il sort de l'homme, il se fait une farine. Donc si on enlève les scories, effectivement, donc là, il peut faire un effort de Torah, et c'est en ce sens-là que donc, la Gemara, la conclusion de ce qu'on disait la dernière fois, était repris dans la. La Mishnah de la Vot qui nous dit En Lecha, c'est ça, En Lecha, Ben Chorim, et les Mishéosek de la Torah, donc tu n'as d'homme libre que celui qui s'occupe de Torah. C'est dans ce sens-là, dans ce rapport aliénation-liberté, dans ce rapport effort-souffrance, dans ce rapport, donc, rapport de l'articulation des niveaux, des différents niveaux d'effort, que on trouve cette notion de liberté mise au niveau de celui. Ça, c'était un peu ce rappel pour nous situer dans le contexte ceci sur aliénation liberté. Mais je crois que nous avons hâte d'entendre là-dessus donc Rav Bauer, à qui je laisse bien volontiers la parole.
Pardon. Merci. Voilà. Alors, je vais vous parler ce soir, donc, comme on avait c'était demandé, de la réciprocité. En tout cas, c'était ce qui doit être traité, la réciprocité patron-employé-ouvrier. dans le cadre effectivement de ce rapport aliénation et reroute, liberté ou libération de l'homme. Alors je ne sais pas comment vous avez l'habitude de travailler, je vous propose de prendre d'abord une étude sur texte et de voir comment le texte fait surgir, des contradictions. Oui. Comment il fait surgir des contradictions et comment on va pouvoir faire parler ces contradictions-là. Alors je vous propose donc de prendre dans Kiddushin Daf Kaf. On va prendre ça à quel niveau? Tanu Rabbanim Karbemane, voilà. Alors c'est ici, on va les compter, c'est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 6 lignes avant l'élargissement, vous voyez. L'élargissement, 6 lignes, Tanu Rabbanan. On fait rapidement, on ne va pas s'apesantir trop sur le texte, mais quand même on va voir un petit peu les grandes lignes du texte. Hein. Tanu Rabbanan, si vous avez vu, voilà. Alors, Nimkar Bemane, alors de quoi on parle? On parle ici de Eved Ivri, du statut au départ, le texte parle de quelqu'un, un juif, Eved Ivri, un juif qui s'est vendu, qui a été vendu, un autre juif, mais comme esclave, un statut de Eved Ivri. Ce n'est pas le même statut que l'Eved Knaani, l'esclave non-juif. Bon, bonjour, il n'y a plus d'esclave, mais disons, la Gemara a ce support-là, puisque à l'époque, la notion d'esclavage existe encore, donc il y a l'esclave juif, qui n'a pas du tout le statut de l'esclave non-juif, mais qui n'est pas non plus un simple ouvrier, c'est quand même quelqu'un qui est totalement à la disposition de son maître, mais qui peut se racheter. Il est vendu pour 6 ans, normalement. Oui, alors au-delà, s'il veut rester, vous connaissez le digne de l'oreille qui est poinçonné, il peut rester plus longtemps, mais au départ, il est vendu pour 6 ans, mais peut aussi se racheter avant les 6 ans. Il peut sortir si quelqu'un l'aide, s'il a des moyens, s'il se reprend en main, s'il voit son avenir autrement, il peut se racheter. Alors, il y a ici un digne qui est dit comme ça, « Tanu Rabbanan nimkar bemane veishbiar ve'amadan me'ataim, minayin shen mechashvin lo elamane. » Alors, c'est quelqu'un qui a été vendu, son travail a été vendu pour mané, c'est 100 shkalim par exemple, je ne sais pas quoi, le mois ou l'année. Donc son heure de travail vaut tant, oui, disons son mois vaut 100 shkalim, il a été vendu sur cette base pour 6 ans, une certaine somme qu'on lui a donnée. Seulement, entre-temps, oui, cet ouvrier prend de la valeur, soit que son métier se valorise, soit que lui-même se valorise. Entre-temps, son travail vaut deux fois plus. Qu'est-ce qui se passe si cet ouvrier veut se racheter au bout de 3 ans, 2 ans, 4 ans, il veut se racheter, donc on fait le calcul normalement d'après au prorata des années travaillées. Simplement, comme sa valeur a augmenté, est-ce qu'il faut réévaluer la somme qu'il doit payer? Si maintenant son travail vaut deux fois plus, il va devoir, lui, pour se racheter, payer deux fois plus. Deux fois plus par année, oui, que ce qu'il valait, ce qu'il a reçu, lui, par exemple, en se vendant, au départ, au début des 6 ans. Au début de 6 ans, il a, disons, 100 shkalim par an, on peut dire comme ça, donc 600. Maintenant, il est à 3 ans, il reste 3 ans, mais il vaut deux fois plus, il faut qu'il redonne 600, ouais, pour se racheter. Est-ce qu'on fait comme ça ou non? Alors, c'est ça le problème qui est posé. Alors, Nimkar Beman, il a été vendu pour 100 shkalim l'année, par exemple, oui. Vehashbiar, vehamadal miatem, il vaut, maintenant, son travail vaut le double, 200, quelle que soit l'unité. Minein, shenur, shinzo, et la mané. Alors, d'où sait-on que pour se racheter, il se rachète sur la base de départ? Son travail valait 100 unités au départ, il se rachètera sur cette même unité. Chez Neymar, Mikesef Miknato. Bon, on ramène un pasouk, on dit qu'il devra faire le compte Mikesef Miknato sur l'argent de son achat, donc sur la valeur d'achat. Donc indexé, si vous voulez, sur sa valeur d'achat. Nimkar Bemeataim, s'il a été vendu 200, c'est en sens inverse, il a perdu de valeur. Son métier s'est dévalorisé, ou bien lui-même travaille moins bien, a vieilli, je ne sais pas. Oui, il vaut deux fois moins. Donc il était vendu à 200, virsif, il vaut moins, 20 madalmané, donc son travail vaut la moitié, minaïn shen merchino et la mané. Là aussi, on ne lui compte pour se racheter que le prix, cette fois-ci, de la plus petite valeur. Donc c'est toujours à son avantage. S'il valait peu au départ, plus après qu'il veut se racheter, il se rachète sur la base de départ. Si c'est l'inverse, oui, s'il valait beaucoup au départ et moins maintenant, il se rachète sur la base présente. Donc c'est visiblement un avantage. Oui. Donc visiblement, on aide, la Torah semble dire que on va dans le sens du rachat du Eved, que l'Eved puisse se racheter le plus facilement possible. On va dans son sens, c'est dans le sens de la pente. Ça n'est pas équilibré, oui. C'est dans le sens, c'est à la faveur du Eved. D'où sait-on, Talmud Lomar, que Fishanav. Bon, il y a un pasouk qui dit que Fishanav, on lui comptera d'après les années, mais le que Fishanav veut dire comme il vaut maintenant. Donc il y a Mikesef Miknato, il y a une évaluation qui est l'évaluation de départ, mais il y a aussi une évaluation présente. Et la Gemara a décidé que c'était à la faveur du Eved. On verra que tout à l'heure, le texte va dire pourquoi tu dis dans ce sens-là, ça peut parfaitement s'inverser. On va voir tout de suite. Enli Ela Eved Animkar Leoved Kochovim. Alors pour le moment, ça, ce dîne-là du rachat, concerne le juif vendu à un goy, puisqu'il y a aussi le cas du juif vendu comme esclave à un goy et que l'on doit racheter. Hein. Ses proches doivent le racheter sur ces bases-là. Alors, là, Enliela Eved Anim Karl Obed Korvin, puisque les psukim cités, les versets cités, parlaient de ce cas-là. Oil Venig Al Bekrovin. Donc, je veux dire, dans la mesure où il y a une mitzvah pour les proches juifs de racheter, de sortir ce juif des mains du goy qu'il a acheté, auquel il s'est vendu, alors je dirais, puisqu'il y a une mitzvah, on va dire Yado Al Tartona. La main du goy est à Tartona, c'est l'expression d'Agmara, pour dire, il est, comme ça, tu as indiqué, qu'on joue en faveur du juif contre le goy dans ce cas-là, pour sortir le juif, oui, des mains d'un esclavage ou d'un esclavage goy. Mais est-ce qu'il en est de même s'il est vendu à un juif? Un juif qui s'est vendu à un juif, c'est Eved Ivri, oui, vendu à un juif. Nimkar l'Israël minalan. S'il est vendu à un juif, est-ce que la même faveur joue ou non? Peut-être que c'est seulement pour ne pas qu'il reste dans les mains d'un idolâtre, oui, alors il y a une mitzvah de sortir le juif de là, mais s'il est vendu à un autre juif, non, on aura un calcul plus équilibré ou plus, oui, à égalité, c'est plus juste. Soit tu prends la base de départ, soit la base actuelle, mais ce n'est pas toujours à l'avantage du Eved qui dit. Talmud Lomar, Sahir Sahir. Alors, là-dessus, l'Xera Shava, qu'est-ce que c'est Xera Shava? Peut-être que vous savez déjà, Xera Shava, c'est lorsque dans deux textes de parachat de la Torah, proche ou éloigné, apparaît un même terme, oui, alors on apprend d'une paracha sur l'autre. Il y a ce qu'on appelle donc une Xera Shava. On a employé un terme identique et qui sert de pont. Ici, le terme de Sahir, Sahir veut dire un ouvrier. Le terme de Sahir apparaît dans la paracha de la personne vendue au goy, et apparaît aussi dans la paracha du Eved Ivri, celui qui est vendu aux juifs. Une fois c'est marqué quelque chose comme j'ai pu en tête, mais Mishnesra Sahir Yavod Otra Yavodimra, c'est-à-dire il travaillera avec toi le double des années d'un Sahir. On mentionne la notion de Sahir comme comparaison, oui, au Eved. Il y a une comparaison entre l'esclave et le Sahir, une certaine indexation, une certaine relativisation. L'esclave travaille deux fois plus qu'un Sahir, oui, un ouvrier. On apprend des dynimes de ça. Et ailleurs, c'est marqué, pour l'Eved Ivri, on y reviendra aussi, c'est marqué que Sahir que Toshav Yehimar. Oui, il sera avec toi comme un ouvrier, comme un Toshav, comme quelqu'un qui est résident. On verra ce que signifient ces termes. Toujours est-il que chaque fois, l'Eved est comparé, oui, on veut le comparer au Sahir. Et la Xera Shava va utiliser ces deux termes de Sahir qui apparaissent et chez celui qui est vendu aux Juifs et chez celui qui est vendu aux Goy pour dire les dynimes sont les mêmes, tout ce qu'on peut comparer, oui, tout ce que la Torah n'a pas expressément différencié, on va apprendre. Alors, ce que je voulais dire, c'est déjà un premier point, parce qu'on ne veut pas rester évidemment sur la logique de l'esclave, on n'a plus d'esclave, nous, oui, on va essayer de réfléchir sur l'ouvrier, le sahir, l'employé, oui, quelqu'un qui est simplement rétribué normalement, oui, dont le temps est payé, oui, et alors, il me semble que le fait qu'on utilise comme Zera Shaba, le terme de sahir, c'est une indication, parce que comme ça, j'ai entendu ou appris que la Xera Shava, le terme qui sert de support à Xera Shava, n'est pas pris au hasard. Il a à voir avec le contexte. On ne va pas se servir d'un terme insignifiant ou hors sujet pour transférer des informations. Le fait qu'on apprenne des dynimes de l'esclave, vendu au goy ou vendu au juif, d'un terme support qui désigne quelqu'un qui n'est pas esclave, sahir, sahir, ça donne à penser que le sahir, quelqu'un qui est employé, a quelque chose du Eved. Quelque chose d'aliéné, puisqu'on parle d'aliénation, il y a quelque chose, alors ce n'est pas un esclave, mais il y a quelque chose d'aliéné dans le sahir, et ce terme-là de sahir va servir à apprendre des dynimes de l'esclave, d'une paracha d'esclave vendu aux juifs à une paracha d'esclave vendu aux goy. Donc c'est une première indication, et il faut savoir, ici la Gemara ramène simplement sahir, sahir très vite, mais dans les dapim qui précèdent, tête va à vous, et les dapim précédents, il y a toute une discussion sur presque un daf pour savoir si on tient ou non cette Xera Shava. C'est une marloquette, et il me semble que la maskana, c'est qu'on ne tient pas. Oui, enfin, il y a une personne qui tient, il y a une opinion, mais la Gemara ne semble pas retenir, oui, forcément, cette Xera Shava de Sarir Sarir. Bien qu'ici, elle la ramène sans reprendre la discussion. Donc, ça veut dire que ce n'est pas évident qu'on tienne la Xera Shava. Il y a une équivalence qui est faite de toute façon, mais par d'autres drachot. Il y a un vav, il y a d'autres outils pour comparer les différentes sortes d'esclaves, oui, celui qui était vendu par le Bedin, le Eved Ivri, celui qui est vendu de lui-même, celui qui est vendu au Goy. Il y a d'autres outils, et c'est une discussion dans la Gemara. Est-ce que cette Xera Shava de Sahir Sahir est pertinente? Est-ce qu'on la tient ou non? Donc c'est intéressant, c'est pas du tout évident qu'on tienne cette Xera Shava. Les termes existent, Il y a le mot sahir et le mot sahir, mais c'est pas parce qu'il y a les mêmes termes que ça fait forcément Gzera Shava. Il y a une Kabbalah, comme ça on dit, c'est-à-dire on a reçu, et il y a parfois des marchoptotes dans la transmission, est-ce qu'on tient ou non. Mais derrière la Kabbalah, je peux imaginer qu'il y a des enjeux. C'est-à-dire c'est pas tellement évident, oui, c'est pas tellement évident d'apprendre des dîmes d'esclaves du terme sahir, d'une Gzera Shava sans sahir. C'est-à-dire il y a une discussion, si vous voulez, en arrière-plan, sur le degré d'aliénation du sahir. Comme ça, je l'entendrai. Mais de toute façon, on n'est pas loin. La Gemara tente de le dire. Quand elle veut dire vite, elle va dire sahir, sahir. Si vous voulez voir plus en détail, vous verrez que ce n'est pas si simple. Mais il y a quand même l'idée, ça que je veux dire, que quelque chose dans l'ouvrier est perçu, oui, relève d'une certaine aliénation. C'est la relativisation de ces choses-là qui fait peut-être que la Gemara dit non, la Gzera Shava n'est pas pertinente. On ne peut pas apprendre de sahir, sahir. Mais quand même, c'est dans l'air, et quand la Gemara veut aller vite, c'est ça qu'elle ramène. On reverra, on va revenir plusieurs fois sur ce terme de sahir, oui, qui n'a pas un sens simple dans la Torah. Oui ? Oui. Oui. Non, parce que l'agma va dire de toute façon que c'est de Raïta, mais elle va avoir d'autres drachot. Il va y avoir un Vava Mossif qui relie Elion de Tarton et ce genre de choses. Elle va trouver d'autres drachot. Celui qui n'est pas l'homme de Sahir Sahir a d'autres drachot. Ce qui veut aussi dire d'ailleurs que ça se construit autrement, ça se pense probablement autrement. Le choix de l'outil signifie aussi une réflexion, un cheminement différent. Oui, donc l'agma, si elle ne peut pas apprendre de Sahir Sahir, elle fait. C'est tout un détour. Voilà. Mais c'est de Raïta. À l'arrivée, c'est de Raïta. Mais c'est le comment on l'apprend qui est discuté. Oui ? Oui, alors ça veut dire que c'est un goy qui vivrait à l'époque de la Torah comme ça, en Eretz Israël, et qui serait sous l'autorité du Beit Din Israël. On aurait un moyen de pression, sinon évidemment ça ne commence pas. Donc ça suppose, voilà ce qu'on la Torah propose, évidemment, si le Beit Din a un moyen d'influer sur le goy, si on peut faire pression, sinon effectivement ça ne commence pas. Donc c'est rarement le cas, mais ça donne quand même l'occasion d'une réflexion au moins, quelle est notre obligation, puisqu'il y a une obligation pour les autres juifs de racheter ces juifs vendus en goy. Voilà. Est-ce qu'on laisse, juste qu'on laisse quelqu'un, on va y revenir d'ailleurs, s'enfoncer. Ouais. Donc il y a un achat de sahir sahir pour nous apprendre que même l'esclave vendu aux juifs, c'est le même din, on favorise son rachat, on joue dans son sens pour se racheter, il a toujours les meilleures conditions pour se racheter. Omar Abaye rapidement, Arini que Ben Azaï, Shuket Veria, Rashi explique, je suis en forme, vous pouvez me poser des questions, je suis comme Ben Azaï, oui, dans les Shuket Veria Ben Azaï, dit Rashi, qui disait, vous pouvez me poser des questions, je suis plus fort que n'importe qui pour répondre, bon, c'est une manière de parler, dire, allez-y, si vous voulez poser des questions, je peux répondre. Bon, Ben Azaï aussi, Abaye aussi, allez-y, posez-moi des questions. Alors, quelqu'un en a posé une. Omar Leahou Mirabanan, le Abaye, Mirde Anekraï, Ika le Minreshenou le Kula, et Ika le Minreshenou la Khumra. Les deux psukim qu'on a cités tout à l'heure pour dire qu'on rachète l'évêque d'Ivry à son avantage. En disant, il y a un pasuk qui dit que Fishanav, on le rachète suivant les années, et un autre qui dit Mikesef Miknato, suivant l'argent du départ. Donc, l'indexation se fait-elle d'après le départ, ou se fait-elle de manière actualisée, si vous voulez? Alors, on disait, ben, ça dépend, on prend le plus avantageux. D'après le départ, si c'est plus avantageux pour lui, actualiser si c'est plus avantageux pour lui. Là, celui qui demande à Abaye dit, mais on peut exactement inverser. On pourrait parfaitement dire, oui, qu'on le prend au désavantage du Eved, qu'on ne le laisse pas se libérer. Oui, c'est-à-dire que on prendra toujours, si ça vaut plus cher au milieu, eh bien on actualise son mode de rachat. Si ça valait plus cher au départ, on dit Kesef Mishnato. Quelle preuve tu as dans les mots, il n'y a rien écrit. Je vois juste qu'effectivement, il apparaît, où on peut lire, oui, deux modes d'indexation, tantôt suivant le départ, tantôt en actualisant, mais je pourrais dire que c'est contre l'esclave, ça joue à son désavantage. Toi, tu me dis, c'est à son avantage. D'où sais-tu ? Oui. C'est pas le mot sahir sahir, c'était les psukim de Kefi Shanav et Mikesef Miknato. Hein. Il y a deux psukim quand on parle du rachat, quand il faut racheter, faire un pidyon. Il y a deux psukim qui mentionnent ce pidyon. Le premier sahir se rapporte au rachat, oui, de celui qui est vendu au goy, et le deuxième se trouve dans la paracha de celui qui est vendu au juif. Pardon ? Oui. Alors, toujours un petit peu rapidement, elle dit, Maï chazid darshinu le kula ni darshinu le khumra. Pourquoi tu dis, tu vas dans le sens du Eved, ce qu'on appelle la kula, c'est-à-dire tu lui facilites, on n'a qu'à aller dans le sens de la khumra. Réponse, lo salkadatar, non, il ne faut pas que tu penses comme ça. Mide kazir, mide ekil rahmana le gabé. La Torah, elle fait, elle est, c'est comme ça, ici, ekil rahmana, rahmana c'est la Torah, hein. Le gabé par rapport au Eved. Ekil, ça veut dire ici, on aide l'esclave. On fait des coulottes et on lui facilite la tâche. Où c'est marqué? Détania, kitov lo imar. L'esclave, il devrait être bien avec toi. Kitov lo imar. On va voir tout de suite, toi, tu as une autre racha. Imar be ma'achal, il doit être avec toi pour manger. Imar be mishte, il doit être avec toi pour boire. Shilo tiata ochel pat nekia, c'est-à-dire tu ne dois pas manger toi du bon pain, du pain blanc. Vouchel pat kever, lui mange du pain noir. Oui. Ou bien, attachote yayin yashan, toi tu prends du bon vin, lui prend du mauvais vin, etc. Ata yashan al gabe mochin, toi tu dors sur un édredon, enfin un matelas. Vou yashan al gabe teven, et lui dort sur de la paille. Donc il doit être traité aussi bien que toi. Mika nomru, kol akone eved ivri, que kone adon asmo. Hein, donc formule comme ça. Tout celui qui acquiert un esclave juif, que kone adon asmo, c'est comme s'il acquérait un maître. Oui, un maître, oui, parce que il doit se soucier de lui. Tosfot dit, lav dafka un maître, il suffit qu'il soit mon égal. Simplement, Tosfot dit, oui, mais le souci d'égalité, de traiter d'égal à égal le Eved, va très loin, et parfois il arrive qu'on n'ait pas deux objets à partager, mais que un, et dans ce cas-là, il sera pour lui. Mais c'est une manière de dire, il y a un souci d'égalité, il n'est pas d'emblée un maître, mais on veut dire, il y a un souci d'égalité poussé très loin, et éventuellement, s'il n'y a pas de quoi partager, ça sera à son avantage. Voilà. Alors, juste une première remarque. Il y a un Tosfot qui est renvoyé dans la marge. Tosfot daf tet vav. Il a dracha ici, qui tov lo imar. Ce n'est pas la bonne dracha. Ce n'est pas la dracha qu'on trouve dans Torah de Kohanim, sur la paracha elle-même. Il dit il y a une autre dracha qui vient dire que l'esclave doit être bien traité. Un autre pasouk qui dit justement que sahir, que toshav yehimar. Il sera comme un ouvrier et un résident avec toi. Bien. Donc, c'est d'autres mots. Et encore une fois, on veut, quand on veut dire que l'esclave doit être bien traité, eh bien, on le compare à un sahir, on doit le traiter comme un ouvrier libre, bien que lui soit asservi, mais il doit être traité comme un homme à tout faire, qui rentre chez lui le soir, qui a simplement son salaire et tout ça. C'est un ouvrier libre, il faut le traiter en ouvrier libre. Mais là, encore une fois, quand on veut dire que l'esclave doit être bien traité, on prend comme référent le sahir, l'ouvrier libre. Alors, vous allez voir ce que ça donne pour la suite, c'est pour ça que je mentionne Tosot. Dans la suite, la Gemara dit ceci. Donc, où en étions-nous? On était en train de dire, voilà, on va aider l'esclave à se libérer et on facilite la tâche de libération de l'esclavage. Pourquoi? Parce que je vois par ailleurs qu'il y a une notion d'aider l'esclave, de le traiter d'égal à égal, de le traiter en homme libre autant que faire se peut, de le traiter comme un sahir, de le nourrir comme, vous, comme je mange moi, de lui donner à boire comme je bois moi, etc., de le loger, loger blanchi comme moi. Alors, là-dessus, l'Agmara dit, et donc je dirais, ben, pour ce qui est de le racheter, pareil. L'Agmara va rentrer dans une hypothèse, et c'est ça qui est intéressant ici. L'Agmara dit ceci, après avoir juste balancé, si vous voulez, le slogan, si on peut dire, oui, « Kola kone eved ivri que kone adon asmo », il dit « Veima anemile l'union achila vechtia », il dit ça, c'est peut-être pour le boire et le manger, ou le loger, c'est-à-dire pour le confort, « Ki ri de lolissa erle », pour ne pas le faire souffrir. « Ha l'union pidion nachmir ale », mais pour ce qui est de lui faciliter sa libération, pas sûr. Peut-être que là, on va être mahmir, midi Rabbi Yossi Berachanina, au nom d'un enseignement de Rabbi Yossi Berachanina, que je vais vous citer tout de suite. Alors, là, c'est déjà intéressant. La Gemara, elle a une démarche, c'est ça le point important de ce texte-là, c'est la clé de voûte, il me semble. C'est qu'on lance un slogan, celui qui acquiert un Eved Ivri, c'est comme s'il acquérait un maître. Et puis juste après, on dit, oui, mais attends, d'accord, très bien, ça c'est pour ce qui est de son confort. Le confort, c'est un certain registre. Bon, on ne veut pas, il y a un problème de dignité humaine, on va dire comme ça. C'est important. Mais pour ce qui est de lui faciliter sa libération, non. Tiens donc. Donc, on ne va pas forcément faciliter sa libération. Ça n'a rien à voir. Tu voulais amener une preuve qu'on facilite sa libération parce que tu vois bien qu'on a un souci de sa dignité. La dignité humaine, il dit, oui, mais ça c'est le problème du confort. Mais un souci de sa dignité, c'est une chose, un souci de sa liberté, tu n'as pas encore prouvé. Ce sont deux choses. Comment je le traite? Je le traite dignement. c'est une chose que je l'aide à se libérer, peut-être pas, et vous allez voir, les termes vont se durcir un peu. Oui. Ils vont se durcir parce qu'on ramène cet enseignement de Rabbi Hanina, hein, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, qui dit comme ça. Détania, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, alors on ne va pas tout lire, je vais le lire rapidement. Détania, Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Omar, Ba ou Re'e, viens et vois, Kama Kaché Afka Shel Shvi'it, combien c'est difficile, Afka, c'est la poussière de Shvi'it. La Shvi'it, il dit quoi? Pourquoi? Parce qu'il dit Adam Nosse Venoten Beperot Shvi'it, un homme commence par faire du commerce, interdit, avec des fruits de Shvi'it. Le sauf mocher et metal te lave. Après, il va venir à vendre ses biens. Je vous passe toute la suite du texte. La suite du texte, en fait, c'est Be'ar. Le début de la paracha de Be'ar, dans laquelle se trouve justement toute la paracha de la vente de l'esclave, des différentes ventes d'esclaves aux juifs, aux goy, mais qui commence par les parachiotes, par la paracha de Shvi'it. Et Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina veut faire un enseignement. Celui qui ne respecte pas, oui, les interdits de Shvi'it, de proche en proche vont lui arriver toutes les parachutes qui suivent. Il va en venir à vendre ses biens, à vendre son champ, oui, parce qu'il va s'appauvrir, ça veut dire. Il va emprunter ou prêter à intérêt. Il va finir par se vendre, oui, par être vendu à un juif, par être vendu pas seulement à un juif, mais d'être vendu même à un goy, et pas seulement à un goy ordinaire, mais même à la Vodazara, au prêtre de la Vodazara. Il fait un genre d'enchaînement pour dire ceci, que quelqu'un qui se vend comme Eved, c'est parce que quelque part au départ, il a commencé à mal agir. Ou bien il a vendu des fruits de Shvi'it qui étaient interdits, donc il a voulu faire des profits interdits, oui, et en fait il s'est appauvri avec ça. Il a peut-être prêté intérêt. Et donc à cause de cela, hein, oui, à cause de cela, dit la Gemara, si c'est comme ça qu'on voit quelqu'un qui est vendu comme Eved, autrement dit, un peu comme un rachat, ou en tout cas comme quelqu'un qui est fautif, oui, eh bien il ne faut pas l'aider à se libérer. On va revenir dans le texte dans deux minutes. Mais c'est un changement, oui, en épingle à cheveux, un virage en épingle à cheveux. Ça veut dire, tu me dis qu'on se soucie de sa dignité, et après tu dis, oui, d'accord, mais pour ce qui est de le libérer, il faudrait voir, oui, parce que ce n'est pas quelqu'un de très bien. Voir, oui, de vaguement méprisable, puisqu'on en parle comme quelqu'un qui a fauté. On va voir que la Gemara, la Torah, va recorriger ça, mais la question de la Gemara est intéressante. La question veut dire comme ça, quand bien même tu dis qu'on a un souci de dignité du Eved, tu n'as pas encore écarté l'hypothèse ou l'hypothèque du mépris. C'est-à-dire que derrière un souci d'une personne peut se cacher du mépris. Il faut écarter, il me faut un texte, oui, il me faut un texte clair pour dire que d'une part on a un souci de sa dignité et deuxièmement la Torah nous oblige, nous demande, oui, de l'aider à se libérer. Mais, et donc on va devoir amener un passouk. On va devoir donner une preuve. Au moins, on est au niveau de la question. Peut-être qu'on ne l'aide pas à se libérer. Peut-être que quand bien même on nous dit que celui qui prend un esclave prend un maître, on n'a pas encore écarté un jugement de valeur, oui, un jugement défavorable sur cette personne. Ça n'a rien à voir. Alors évidemment, la Gemara ne veut pas rester sur ça. Elle veut aller plus loin. Mais la question est intéressante. La question n'est pas naïve. La Gemara n'est pas naïve. Derrière le souci de dignité d'une personne ou la protection sociale, oui, peut encore se cacher du mépris. Que pense-t-on de la personne qu'on protège ?
Le mépris, c'est le mépris qui porte l'esclave
lui-même sur... Non, le maître sur l'esclave. Le maître, enfin... le maître sur l'esclave, parce que je dis, je ne vais pas l'aider à se racheter, puisque de toute façon, c'est un peu de sa faute. S'il est là, il a commencé à faire des fautes, c'était pas un bon juif, entre guillemets, oui, il a commencé à faire... Attends, il s'est vendu comme esclave parce que, simplement, il a du mal à vivre, oui. Toi, tu viens avec une histoire qu'il a dû commencer à mal agir et à vendre. Donc c'est déjà un jugement, c'est une manière de dire, oui, bon, il est gentil, on va l'aider, mais enfin, il vaut pas grand-chose. Il vaut pas grand-chose. Or, tu viens de me dire à Kone Eved Ivri que Kone Adon. Un genre de principe, vous voyez. Celui qui prend un esclave hébreu, c'est comme s'il prenait un maître. Alors, ça y est, on a tout compris. C'est ce que la Gemara voulait dire. On a tout compris. C'est bien. Donc, on va l'aider. C'est quelqu'un qu'il faut aider. Tu ne dis pas du tout. Ça ne veut pas forcément. Donc, c'est là où la Gemara, si vous voulez, n'est pas naïve. Attention au slogan. Le slogan, entre guillemets, de dire quand vous prenez un esclave, c'est comme si vous preniez un maître. C'est-à-dire qu'il faut avoir un souci de sa dignité. Ça laisse la place, il faut évidemment évacuer ça, mais il faut voir comment on va l'évacuer, mais ça laisse la place à du mépris. Quelqu'un que vous aidez, oui, ça n'exclut pas que vous le méprisiez. Il faut encore que quelque chose soit dit pour empêcher le mépris. On peut aider quelqu'un, mais ça peut être condescendant, vous voyez ? Ça peut être condescendant, il peut y avoir un mépris larvé, conscient, inconscient, peu importe. Ça veut dire, derrière le fait qu'on aide quelqu'un, oui, mais bon, on n'en pense pas moins. Et c'est ça qu'il faut éradiquer. Mais vous voyez, donc la Gemara ici, elle est vigilante. Il dit, quand simplement tu dis « Tov lo imar », il devrait être bien avec toi, ou bien « Que sahir que te chavie imar », encore mieux, on verra tout de suite, il sera comme un ouvrier avec toi. Quand tu dis ça, tu n'as encore pas dit, oui, que tu essaies de le libérer, de l'aider à reconquérir sa liberté. Tu as dit juste que tu t'occupais bien de lui, mais que surtout qu'il ne sorte pas de la cage et de la case où on l'a mis. Ça, tu n'as pas encore dit. C'est ça que l'agma veut dire. Attention, quand vous aidez quelqu'un, vous ne l'aidez pas forcément vraiment. Vous aidez, c'est-à-dire, vous lui donnez des conditions de confort comme les vôtres, bon, c'est déjà bien, c'est important. Mais il y a un autre problème. Le problème de l'aider à se reconstruire, puisqu'il s'est déconstruit, l'aider à se reconstruire, c'est une autre paire de manches, c'est un autre projet qui n'est pas le même. Quand vous, simplement, vous traitez quelqu'un bien, vous occupez de sa dignité, vous ne l'aidez pas forcément encore à se reconstruire. C'est ça que la Gemara, au fond, elle demande. Il me faut d'autres psukim. Tant que tu ne m'as pas dit que j'ai une obligation de l'aider à se reconstruire, tu m'as rien dit en me disant simplement qu'il faut que je m'occupe de son confort, de sa dignité. Dignité, ça veut dire jusqu'où va cette dignité, on va dire. C'est quoi la dignité vraie de la personne? Est-ce que c'est simplement d'être bien traité ou bien de pouvoir se construire librement? C'est en fait ça que la Gemara demande sur son mode un peu particulier. Oui. Alors elle continue, vous prenez de l'autre côté. Et Omar Lé, la Gemara dit à la fin de la première ligne, donc après avoir fait toute la cascade de la vente de cette personne jusqu'à être vendue au Goy et même à Dilodatre, Omar Lé, fin de la première ligne, première réponse, Atam Haadrekra, le Pasouk réintègre le Eved, Rachidi, dans l'obligation d'être Merachem Alav, d'avoir une vraie miséricorde à son égard, donc quelque chose qui ne soit pas du mépris. Détané, où est-ce que c'est marqué? Où est-ce que je vois ça? Alors détané, il y a un enseignement d'Ebé Rabbi Ishmael, au Bet Amidrash de Rabbi Ishmael, « Oh, il va l'arze venasi kumar lavadat kochovim, imalitre even acharnofel » puisque celui-là est allé se vendre, à la limite on va dire, jusqu'à être vendu même à un prêtre idolâtre. Mais l'avdavka, ça revient aussi sur celui qui est vendu aux juifs. Imalitre even acharnofel. Est-ce que je vais jeter la pierre sur celui qui tombe? Je serai ima, ça veut dire, je serai tenté de dire, ben, si déjà il tombe, jetons-lui la pierre. Oui, c'est très. Oui. Alors il dit, mais vous voyez, c'est intéressant comme la Gemara scrute. Il dit, mais tu viens de dire qu'il est comme un Adon. Mais dans le même prolongement, je vais dire d'accord. Mais dans le prolongement, il dit d'accord, je vais le traiter bien, oui. Mais pour ce qui est de le libérer, non, je l'enfonce. Alors, pour ne pas dire ça, pourquoi tu ne dis pas ça? Talmud Lomar, Ahare Nimkar Geulat Yelo. Après qu'il se soit vendu, il faut le libérer. C'est le terme de Geoula, puisqu'on est près de Pessah. Voilà. Geulat Yelo, il y a une notion de Goalti et Trem. Hein. Geulat Yelo, il faut sortir de l'Avdout. Il lui faut une Geoula. La Torah dit, il faut une Geoula. Mais la vraie perspective, c'est la Geoula. C'est pas le Tov Lo Imar, il sera bien avec toi, ou il sera comme un Sahir ou comme un Toshav. C'est pas ça la perspective. La perspective, c'est Geulat Yelo. Il faut qu'il soit libéré. Echad Mechav Yigaleno, un de ses frères le libérera. Veima Geulat Yelo ki Yichidelo Litma Benov de Kochovim. Peut-être ça, c'est seulement vrai quand il est vendu au Goy, mais s'il est vendu chez un juif, non. Halunyan Pidion Nachmirale, donc on revient avec la question. Peut-être quand il est vendu à un juif, c'est encore autre chose. Vendu au Goy parce qu'il est trop loin, ça, on ne veut pas laisser un juif à ce point-là. Mais s'il est vendu à un autre juif, alors il a qu'à y rester. Il y est qu'il y reste. Oui. Alors on dit non. Alors est-ce que, donc pour un juif, s'il est vendu à un juif, qu'il y reste, midi Rabbi Yossi Berabbi China, pour ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire comme il a fauté, etc., que c'est un peu de sa faute, il a qu'à y rester. Réponse, on amène de nouveau deux autres psukim. On amène deux psukim pour dire non. On a des psukim pour nous dire qu'on facilite sa libération. Donc il faut, vous voyez, démontrer, ouais, il faut que la Torah ramène plusieurs psukim pour arracher, si vous voulez, cette notion de libérer le Eved, il faut le libérer. Oui, c'est ça qui est important. Le fait même de le protéger, de lui donner un statut social, oui, un, une protection du travail, on va dire comme ça, oui, c'est bien, oui, mais il y a un autre problème, oui, c'est quelle liberté, quelle aliénation à cet homme. Même s'il boit et mange comme toi, mais quelque part, son temps n'est pas libre. Il n'est pas libre de son temps, il ne fait pas ce qu'il veut quand il veut, puisqu'il a un patron sur le dos, et même un maître pour l'esclave, qui lui demande de faire des choses. Alors, je voulais vous montrer un texte, et on reviendra à ce texte-là, oui, sur ce terme, le sens du terme « sahir » dans la Torah. Qu'est-ce que c'est que ce mot qui est employé ? « Il sera le Eved, sera chez toi », quand on veut nous dire « il faut le traiter bien au niveau de sa dignité », il sera comme un ouvrier libre et comme un toshav. C'est quoi le toshav et c'est quoi le sahir dans la Torah? Où est-ce qu'on rencontre ces mots ailleurs pour nous dire, voilà, donc l'esclave vendu aux juifs, il faut que tu le traites comme un ouvrier libre. On aurait pu dire simplement que achicha, il soit comme ton frère. Expression qu'on voit tout le temps, oui, ou que reacha, ça ne manque pas dans la Torah. Tout d'un coup, tu dis que sahir, que toshav. Alors regardez, alors c'est ici, puisqu'on est près de Pessah, oui, la partie du Chumash qui vous a été donnée. Hein. C'est une partie sur le Korban Pessah, qui mange du Korban Pessah et qui n'en mange pas. Alors là-bas, c'est marqué Vayomer Hashem, donc le Pasuk, même Gimel, voilà, même Gimel, hein, ici après la Parasha Ptuchala. Vayomer Hashem el Moshe v'Aaron, oui, Hashem a dit Moshe Aaron, d'accord, Zotrukata Pessah, voici le statut du Pessah, Kol Ben Echar lo Yichalbo. Tout étranger n'en mangera pas. Aucun étranger n'en mangera. Un étranger, ben Nechar, un goy, il ne peut pas en manger. Rashi ajoute le moumar aussi, mais ça c'est déjà une dracha, oui. Le goy n'en mange pas. Kol eved ish miknat kesef, tout esclave d'un homme, ici c'est le eved knani, hein. Kol eved ish miknat kesef, tout esclave d'un homme acquis par son argent, ou mal to oto oz yochalbo, tu le circonciras et alors il en mangera. Ça, c'est ce qu'on appelle le Eved Knaani. Et Rashi ramène une discussion. D'après Rabbi Yoshua, quand on dit Oz Yochalbo, il en mangera, ça n'est pas l'esclave Goy. Lui n'en mange pas, mais on veut seulement dire quand il aura la Mila, lui, l'esclave, le maître pourra manger du Korban Pessah. Le maître d'un esclave Goy ne peut manger du Korban Pessah que si tout son personnel de maison, si on peut dire, acquis à lui, est circoncis. D'après Rabbi Eliezer, l'esclave lui-même mangerait du Pessah. Alors, première remarque, oui, c'est que peut-être vous savez, oui, que le Eved Knaani, l'esclave cananéen, c'est-à-dire un goy acheté comme esclave par un juif dans la Torah, oui, il a les mitzvot du juif. Comme ça on dit, les mitzvot de la femme en réalité, hein, c'est-à-dire les mitzvot Shen Azman Grama. Oui. Donc il a ces mitzvot-là, mais en réalité, c'est un goy. C'est un goy comme on voit ici, c'est dans Kol Ben Nechar, c'est un goy. C'est-à-dire que s'il transgresse Shabbat, il n'est pas un chayav mita. Il a les mitzvot, mais il n'a pas les riyuvim, il n'a pas les onshin. C'est un peu une ombre du juif, et justement, il y a une discussion, est-ce qu'il mange de Korban Pessah ou pas? Mais s'il le mange, c'est comme ombre du juif, mais c'est un goy. Après, suit une autre catégorie de goyim, toshav sahir. Oui? Oui. Non, non, rien à voir. Vous dire juste, il a les mêmes mitzvot, les mêmes catégories de mitzvot que la femme, les mêmes catégories. On croit derrière ça qu'il a les mêmes riyuvim que la femme juive ou que l'homme juif. Oui. Pour les interdits, de toute façon, c'est la même chose. Alors je dis non, c'est juste, pour les Eved, c'est juste une ombre. C'est-à-dire, il a le masque du juif, mais il n'est pas juif. Il n'est pas guerre non plus, il n'est pas du tout. Pardon ? Alors, une fois qu'il est libéré, alors il est indigne de guerre, de Meshuchar, c'est pareil qu'un guerre. Mais avant, non. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire ici, c'est un statut curieux, c'est Eved Knaani, mais c'est un goy. Et après, il y a Toshav et Sahir le Yochalbo. C'est qui ceux-là, hein? Ceux-là dont on a dit tout à l'heure, le Eved Ivri, il sera que Sahir ou que Toshav Imar. Il sera comme un ouvrier libre ou comme un résident. On retrouve les mêmes termes ici et ça désigne les goyim. Le terme Toshav Sahir, a priori, je dis c'est un ouvrier, peut-être juif, à l'évidence, puisque sinon on n'en parlerait pas ici, ça veut dire un goy. Intéressant. Le mot, comme la signification ordinaire du mot Toshav, alors Rashi dit Zeger Toshav. C'est le guer toshav, le résident, celui qui fait les chers mitzvot des Noirs. Et sahir, c'est le goy, idolâtre, en tout cas, qui ne fait pas les chers mitzvot des Noirs. Évidemment, celui-là ne mange pas du Korban Pessah. C'est-à-dire que même s'il est invité chez toi, tu ne lui donnes pas, on n'a pas le droit de donner à manger à un goy du Korban Pessah. Là, qui ne donne pas de la matzah au goyim à cause de ça, ou à sa table, ou comme ça. Bon, Intéressant. Donc ici, Toshav Sahir, ça désigne les goyim qui ne mangent pas du Korban Pessah. Le mot dans la Gemara, quand on emploie Sahir ailleurs, c'est un ouvrier, c'est peut-être un juif, un goy. Mais dans la Torah, le terme Toshav Sahir, c'est quelqu'un qui ne participe pas au Korban Pessah, qui ne participe pas à la sortie d'Égypte, à cette Géoula, un goy. Intéressant. Ensuite, bon, d'autres dinim du Korban Pessah, Bebaïté Hadiochal, Lototsi Minabaïs, etc. Koladad Israël Yochlou, qui Igori, après il y a le guerre, Pasuk Memhe, qui Igori Tra guerre, alors là, le din du guerre, évidemment, lui, il mange du Pessah, Voso Pessah Lachem, Imol, Imol, Lokol Zahar, après avoir circoncis tous ses garçons, Vosikrav Lasoto, Veyokézé, Arez, Kolorel, Yochalbo, et tout Arel, ici, l'incirconcis, c'est un juif qui n'a pas pu faire la Mila pour un problème d'hémophilie ou ce genre de choses, à ce moment-là, s'il est Arel, il ne peut pas manger du Pessah, ça, c'est une autre catégorie. Et ce que je voulais amener juste de ce texte-là, c'est que quand on dit que le Eved, on doit le traiter, oui, et c'est toi qui dis, c'est ça le pasouk, on doit le traiter bien, on compare en disant, hein, il faut le traiter comme un ouvrier libre. Mais l'ouvrier libre dans la Torah, c'est un goy. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas libéré. Donc on a déjà tout dit. On comprend que la Gemara enchaîne en disant, attends, tu me dis qu'il faut bien le traiter comme un homme libre, pas comme un esclave, comme une serpillière. Oui, il faut quand même tenir compte de sa dignité. Comme un homme libre, oui, mais comme un homme qui n'a pas participé à la Géoula de Pessah. Tu prends un terme qui, dans la Torah, dans les référents, le référent de la Torah, désigne quelqu'un qui n'est quand même pas libre. C'est un ouvrier libre, si on veut, libre de son temps, dans une certaine mesure, oui, mais qui n'est pas complètement nié. Le mot Sahir désigne quelqu'un. Minastam, ça désigne quelqu'un qui participe au Korban Pessah. Évidemment, on peut avoir d'autres sens, mais c'est intéressant, oui, quand même, cet usage premier du mot Sahir pour dire un goy. Zéa goy. Oui, c'est très très étonnant. Et donc, quand tu dis que Sahir que Toshav Yehimar, on ne peut pas ne pas entendre ça, que l'esclave, même s'il est traité en homme libre, oui, il n'est pas libéré. Libéré, c'est qu'il ne soit plus esclave. Il n'y a pas le choix. Le traiter bien, dans un bon lit, avec le même vin que toi, c'est gentil, mais il n'est pas nigal, il n'est pas libéré. La libération, si vous voulez, c'est une autre paire de manches. Et c'est ça que la Gemara a demandé. Quand tu me dis qu'il faut bien le traiter, tu ne m'as pas encore dit qu'il faut le libérer. Traduction alachique, pour ce qui est de se racheter, on ne facilite pas le travail. S'il y arrive, tant mieux, mais il ne faut pas compter sur nous pour l'aider. Réponse, si, il faut l'aider. Mais c'est une autre perspective qui est ouverte. C'est-à-dire qu'au-delà de bien le traiter, l'aider à se libérer, c'est une autre paire de manches. Et de toute façon, ça doit partir de lui. Nous, on l'aide, mais il faut qu'il veuille lui. Mais simplement, on l'aide. Mais c'est une autre perspective. Alors, puisque, disons, le sujet, c'était réciprocité, oui, des relations patron-ouvrier, j'étais tenté de dire à la lueur de cette Gemara que la Gemara désillusionne, si vous voulez. La réciprocité, l'égalité, le face-à-face entre le patron et l'ouvrier, et, oui, un certain ouvrier, on s'en méfie un petit peu. Alors vous allez me dire, ici on parle de l'esclave, mais je vous ai déjà dit, la comparaison à l'ouvrier se fait, et elle joue dans les deux sens. L'ouvrier lui-même, c'est un goy, dans le terme de la Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui participe à la Géoula. En plus, le mot Sahir, comme on a dit, sert de Gzera Shava, sert de support pour comprendre des choses dans l'esclave. On n'en est pas loin, ça n'est pas un esclave, mais on n'en est pas loin. Le sahir, quelle est la différence? Qui est un sahir? Un sahir, c'est quelqu'un qui est payé à l'heure, ou à la journée, ou au mois, dont le temps est acheté. Un ouman, par exemple, il y a une autre catégorie. Un travailleur, un artisan, dont vous payez simplement la tâche. Vous lui demandez de faire une boîte, vous construire quelque chose, oui, une table, peu importe. Vous lui payez son travail, oui. Le travail, c'est la table achevée. Alors, mais il use de son temps quand il veut. S'il veut faire ça de nuit, de jour, en 4 heures ou en 12 heures, vous lui payez le prix d'une table, le prix de se travailler là habituellement, à lui de se débrouiller, travailler quand il veut. S'il veut comprimer en 4 heures ou étaler sur 12, ça le regarde. Donc son temps n'est pas acheté. Son temps n'est pas acheté. Et il y a même une autre notion qui est discutée en Agmara, qu'on appelle Ouman Kone Beshevar Kli, que le Ouman pourrait être propriétaire de la plus-value de son travail. Donc il y a une autre notion ici, le ouman, c'est quelqu'un qui dispose de lui-même, qui dispose de son temps, il fournit un service, si vous voulez, ou un travail, une œuvre qu'on lui paye, oui, mais il est libre, il s'appartient à lui-même, il négocie son travail, alors que le sahir, sans être esclave, mais il a négocié son temps, ce qui n'est pas pareil. C'est une autre manière d'être. On a négocié son temps, on n'a pas négocié un certain savoir-faire. Oui, donc il y a différents registres. Donc le sahir, sans être esclave, il n'est pas tout à fait libre de son temps. Son temps, il est prisonnier. Il peut se libérer. C'est la différence avec l'esclave. Il peut à tout moment dire, je ne veux plus travailler chez vous, j'ai trouvé mieux ailleurs. Ça, il a le droit. Donc il a une certaine liberté, c'est-à-dire qu'il a, il a un siège éjectable, si vous voulez. Mais c'est quand même pas très souple. Ça veut dire, il est quand même asservi. Il y a un certain asservissement. Et quelque part, je vois dans la Torah que ce type de personne désigne, encore une fois, ça ne peut pas être innocent, mais désigne ce mot sert à désigner quelqu'un qui ne mange pas du Pessah. Et je vois dans le Gemara la même idée développée sous forme de pilpoul, de halakha. Oui, attention, s'occuper de la dignité de quelqu'un et s'occuper de le libérer, ce sont deux choses totalement différentes. Alors, c'est surtout ça, c'est sur ce point-là que je voulais mettre l'accent, c'est ça que je voulais, bon, qui fera l'objet du débat. C'est-à-dire que la Torah propose, ici la Gemara propose un autre cheminement. La protection sociale, on va appeler ça comme ça, de l'ouvrier, c'est bien, c'est nécessaire, c'est une mitzvah. Mais au fond, ce qui est en jeu, même si ça doit partir de l'ouvrier lui-même, oui, mais c'est son accession à une plus grande liberté de lui-même. Alors, ce n'est pas toujours faisable. Oui, quelqu'un m'a posé comme ça, sur mail, comme ça, la question, c'est aussi une utopie. Oui, on sait bien que tout le monde n'accède pas au même degré de liberté. Mais c'est quand même ça qui doit être proposé. Il s'agit quand même de faire passer, d'une manière ou d'une autre, peut-être par le limoud, par, oui, comment, c'est notre paire de manches, mais il s'agit quand même, oui, de faire passer, oui, c'est un genre de culture ou d'approche, oui, il s'agit de faire passer cette dimension justement du Pessah, oui, que le message passe ici, qu'il y a un travail pour que la personne se réapproprie son temps, oui, pour que je sois, pour que chacun soit réellement son, oui, face à l'autre, oui, de manière entière, sans être vendu à l'autre, d'aucune manière, ni comme esclave bien sûr, ni même à travers son temps. Ça n'est pas facile, personne n'a dit que c'est réalisable, mais c'est quand même dans ce sens-là, oui, dans ce sens-là que l'on construit, oui, que l'on construit vraiment, oui, une relation qui peut être juste. Je dirais comme ça, oui. L'idée de dire « akone vedivri kone adon », c'est-à-dire que quand vous prenez un esclave, ou alors un ouvrier, oui, et que vous devez le traiter bien, vous devez avoir un souci de sa dignité, cette idée-là, elle ne vaut que dans la mesure où elle est relayée, où elle peut être relayée par un souci, une culture, oui, de libération, mais de libération du type un Korban Pessah, de libération de la personne, c'est-à-dire de lui apprendre, oui, de permettre, de donner l'occasion, ça dépendra aussi de lui, bien sûr, de se structurer autrement, de structurer les rapports, le rapport au travail différemment, mais de structurer le rapport au temps, l'achat du temps autrement, plus exactement, d'essayer de supprimer, ouais, l'achat du temps, ouais, pour substituer le plus possible l'achat, on va dire, d'un service, ouais, l'achat d'un savoir-faire, ouais, qui appartient totalement à celui qui fournit ce service. Alors, évidemment, tiens, c'est pas faisable partout, une secrétaire, c'est pas une prestataire de service, c'est une secrétaire, je sais pas, oui, mais donc là, mais il y a quand même, oui, seulement tout ce qu'on fera dans l'ordre de la protection sociale ne supprimera jamais, oui, une dépréciation, un mépris entre guillemets, larvé, inconscient, une dépréciation de la personne. Le fait de protéger quelqu'un, d'assurer une protection sociale, ça ne dit absolument pas, oui, qu'on libère cette personne ou qu'on sorte d'un rapport non dit, oui, de dévalorisation. Absolument pas. Le fait de lui donner à boire la même chose que vous, ça ne sort absolument pas cette personne ou cette relation entre vous et elle d'un rapport possible de dévaluation, dévalorisation de l'autre. Tant que quelque part, vous ne lui donnez pas le moyen, et qu'il ne se donne pas lui aussi, le moyen, oui, d'être totalement libre par rapport à vous. Oui. Il y a un problème de crédit ici. Il y a un problème de crédit. Oui. L'ouvrier, si vous voulez, oui, l'ouvrier, celui qui a vendu son temps, oui, n'a pas beaucoup de crédit, oui, face à son patron. Quoi qu'on fasse, quelles que soient les protections sociales. Indispensable, ça c'est un autre problème. C'est très important qu'il y ait des protections sociales. Mais les protections sociales sont d'autant plus importantes qu'elles masquent un manque de crédit, donc traduisez un discrédit de l'ouvrier. Il y aura d'autant plus de protection que l'ouvrier est discrédité au fond. Et c'est ça que la Gemara essaie de faire passer. Et ça, vous n'y pourrez rien. L'accréditement, si vous voulez, de l'ouvrier passe, oui, par un effort de libération, par le fait qu'il arrive lui-même, oui, à reprendre son temps, oui, et à proposer un ouvrage, ce qu'on appelle dans la Shana Gemara, être ouman, oui, c'est-à-dire proposer un travail, mais disposant complètement de son temps, de son projet, de la manière dont il va structurer son travail, oui, étant totalement indépendant dans son temps, dans l'organisation de son travail, et proposant, vendant, si on peut dire, c'est presque un commerçant, vendant son travail. Alors, la concurrence, tout ça, c'est un problème. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'avais amené ce texte-là sur Pessah, c'est-à-dire que ça donne quand même un horizon. Ça donne un horizon, si vous voulez, le renvoi au Pessah, au Corban Pessah, c'est-à-dire que ça se situe ailleurs que dans les rapports de travail. Il y a ici un problème autre, un peu comme ça a été cité avant aussi, Enrerut, la dame et la limouda Torah, ce genre de choses. Il y a d'autres champs, ouais, où l'homme peut conquérir, et sur lequel il doit conquérir, ouais, sa dignité, son crédit, ouais, face aux autres hommes, dans tous les domaines, y compris dans le travail. Ouais. Les lois de protection du travail sont importantes, il y a un problème de justice, d'égalité, c'est clair, oui. Mais le problème du crédit d'un homme face à l'autre lui appartient. Il n'y a aucune loi qui peut garantir ça. Oui. Le crédit, oui, il faut qu'il se le construise lui-même. Il faut qu'il se le construise lui-même, simplement, on peut l'aider. Et là, il y a un autre problème. Si je l'aide, oui, si je l'aide, c'est déjà que je lui fais crédit. Je lui donne du crédit. Oui. Donc le seul moyen de ne pas discréditer, oui, donc d'accréditer quelqu'un, c'est de l'aider à se libérer. D'une manière ou d'une autre, oui. Alors ici, comment ça n'est pas dit, mais il y a en touche du doigt, oui, quelque chose avec le référent à Pessah. Alors je voulais encore vous donner, puisqu'on est entre Pourim et Pessah, oui, pour rester un petit peu, je crois qu'on n'a pas photocopié ça, mais je vais vous le dire rapidement. Il y a, puisqu'on est dans le champ de l'économique, oui, on voit le banquet de Achashverosh. Le banquet de Achashverosh, oui, les Chachamim le lisent comme une espèce de d'annonce comme ça, de programme, voilà, un genre de programme, oui, un programme politique, mais qui visait quoi? Qui visait, oui, à dire qu'on allait aider les gens à s'enrichir, à se libérer, oui, par l'essor économique, on dirait ça dans nos termes à nous. C'est ça qu'ils proposent, c'est pas ça qu'on veut nous, puisqu'on reproche justement aux Chachamim d'avoir mangé de ce repas-là, oui, d'avoir mangé de ça. Alors c'est intéressant comment les Chachamim le lisent. On n'a pas vu un programme électoral de Achashverosh qui d'ailleurs s'est fait lire par personne. Oui, on n'a pas vu son programme. Mais ce banquet, les Chachamim lisent un genre de programme. Qu'est-ce qu'il veut Achashverosh? Ils ont une lecture, oui, très moderne de son projet, mais c'est un projet économique. Il n'y a rien de spirituel, c'est dans l'ordre économique. C'est marqué, il y a ce passage que vous connaissez sûrement tous, oui, quand on dit l'étalage de magnificence, on dit « Rour karpas techelet achuz bechablebus » Argomon, Glilé, Kessev, Amoudéchèche, donc voilà, des tissus blancs, verts, bleus, etc., rouges, oui, sur des colonnes d'or, de marbre, d'argent et tout ça. Al-Rispat Badochèche, sur un parterre de marbre ou je ne sais pas d'autres pierres précieuses. Vedarve Socharet, et d'autres pierres qui s'appellent Darve Socharet. Chachamim sont d'Orchim. Ils disent Rour, par exemple, c'est intéressant, Rour, il dit Rabbi Yitzhak Omar, Rour, Begadim, Shebne, Chorim, Lofshim. Des habits que les gens libres mettent. Donc, on a montré, c'était une indication, voilà la liberté. La liberté, c'est de belles fringues, de beaux tissus, oui. Rour, Rorin, Rerout. C'est déjà un terme de Pessah. Oui. Karpas, tiens, curieux, ça dit quelque chose. Alors, il dit lui, mais là-bas, c'est Karim Shel Passim. C'est des lits de Passim, de soie, de beaux tissus. Karpas, ça devient, oui, ça devient de la richesse. On passe sur tous les autres termes, les deux derniers, Darbe Soharet, c'est intéressant aussi, Darbe Soharet, il y a une opinion qui dit chez Garadror, le kolba l'esroua. Darbe Soharet, évidemment Darbe Soharet, le pshat, c'est une pierre, un genre du marbre, Soharet, une autre pierre précieuse, mais il transforme ça. Garadror, le kolba l'esroua. Il a créé la liberté des échanges, tiens, très moderne, oui. Plus d'impôts, il a supprimé les impôts, quelques temps, après je crois qu'il les a rétablis, mais peu importe. L'idée de créer une liberté d'art, c'est dror. Ça devient dror la socharim, socharet. Donc il a créé une société dans laquelle on facilite les échanges, l'enrichissement, l'enrichissement économique. Oui. Ce qui est intéressant, c'est le retournement des termes. Soharet, je me suis aperçu, c'est Haroset dans le désordre. Donc on a Karpas, on a Haroset, on a Herut, on a Dror. On a tous les termes de Pessah, mais quoi? Dans le champ économique. Ça devient de la richesse, des habits, des bijoux. On fait signe aux gens, allez-y, enrichissez-vous, et comme ça, vous serez libre. Mais ça, c'est Achashverosh. C'est pas nous. C'est l'envers. On sait ce que ça engendre. Oui. Après, c'est marqué Kirson Ish Ve Ish. Il y en a pour tout le monde là-dedans. Tout le monde est content. Aman aussi. Mordechai aussi. On sait où ça mène. Oui. Voilà. Donc c'est clairement, c'est pas un modèle. Oui. C'est pas un modèle, mais c'est même intéressant. C'est qu'on a retourné tous les termes de liberté. De liberté, d'accomplissement de soi-même et tout ça. Oui. Dans un registre économique. Ça, c'est Achashverosh. Et derrière Achashverosh, il y a Aman. Oui. Les juifs qui mangent de ça se font avoir. Oui. Alors, juste pour terminer là-dessus, oui. Donc, puisqu'on a renvoyé à Pessah, il faut faire attention. C'est-à-dire, ce que l'on veut dire par la libération, oui, c'est pas seulement devenir, ouvrir son propre petit commerce. Oui. Ça, c'est Achashverosh. Oui. C'est l'accomplissement par, oui, par la réussite économique. C'est pas ça qu'on veut dire. Oui. On veut clairement resituer. Oui. Une recherche, une geoula, comme on dit geoula tielo. Qu'est-ce que c'est que la geoula? Qu'est-ce que c'est pour un homme d'être libéré? Oui. Et ça, c'est dans la thématique des Pessah qu'il faut le chercher, sûrement pas dans la thématique, oui, ou dans le programme de Achashverosh, qui n'est qu'un renversement de tous ces termes. Rour, c'est Herut, Karpas, Haroset devenant Soharet, Srorim, le commerce. Il dit non, Haroset, c'est pas ça. Oui. Oui, c'est intéressant. Ces retournements, et comme ça, comment les Chachamim nous avertissent de la récupération par Achashverosh des termes. Et évidemment, là-dedans, on n'est pas tellement libre que ça. Tout le monde doit se prosterner devant Aman, oui. Ça semble pas. Oui, à part Mordechai ne veut pas parce qu'il voit venir. Bon, je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'est clair qu'il y a, oui, il y a un retournement, et un retournement qui n'est pas libérant, qui est dangereux. Ça ne veut pas non plus dire que le modèle libéral économique soit mauvais. Ça veut juste dire que le problème de la Géoula de l'homme ne se situe pas là-dedans, mais ailleurs. Oui. Ailleurs, oui, que dans les rapports de travail, c'est en amont que se situe le problème de l'homme. Et c'est probablement aussi ce que vous dit Rabbi Yossi ben Chanina, qui dit s'il est évède, c'est qu'au départ, il a fauté. Mais peut-être dans un registre moins culpabilisant de la faute, mais juste pour dire que quelque part, à un moment, oui, il a oublié de réfléchir sur ce que c'est qu'être libre, sur ce que c'est que la Géoula, oui, sur le travail qu'il y a pour être libre, et qu'il ne faut pas consentir peut-être à certaines facilités, oui, sinon on glisse. Donc le problème, oui, le problème pour un homme, oui, de conquérir sa liberté, elle n'est pas dans les rapports patron-ouvrier. Là, bon, ben, on gère, oui, on gère, on fait attention à chacun, ça c'est sûr que c'est important, mais il y a un amont, c'est ça que je voulais dire. Le problème de la Géoula de l'homme, il est en amont, et ça c'est, si vous voulez, la thématique de l'identité, de la Géoula, de reconstruire sa personne. Bon, c'est à voir là-bas, il y a tout un registre là-dedans, mais les relations, ce n'est pas à l'intérieur de la relation patron-ouvrier, quelle que soit la manière dont elle sera légiférée, que va se créer une liberté. C'est pas là-dedans qu'on va générer de la liberté. C'est en amont, oui, il faut que chaque homme arrive avec une construction forte, oui, avec un travail qui aura pu être fait dans d'autres plans, l'Iboud Torah, ou bien une réflexion sur Yetziat Mitzrayim, oui, qui lui permet de résister, de ne pas glisser, de ne pas se laisser asservir. Voilà ce que je voulais dire. Alors, j'attends vos questions, parce qu'il me semble que c'est un petit peu la règle du jeu. Voilà. Oui. Oui. Oui.
C'est au patron, oui, de chercher la libération de son employé. Donc, c'est dans la relation
employé-employeur
que la
Géoula,
une partie de la Géoula.
Alors, il y a de ça dans le texte, dans la mesure où on voit que le patron, ou ici le maître de l'esclave, doit l'aider à se libérer. On lui fait obligation de l'aider. Mais il ne faut pas oublier que, de toute façon, on ne va pas le libérer à sa place. Ça veut dire que, de toute façon, ça part toujours du Eved, seulement on va l'accompagner. Donc, ce qu'on veut juste dire, c'est que le souci que peut avoir le patron de la dignité du Eved ne vaut que si dans sa tête, Oui, il y a une démarche, il est disponible, disposé à l'aider à ne plus être esclave, si vous voulez. Donc ça. Mais ça partira de toute façon du Eved, simplement la démarche du patron pour ne pas être biaisé, on va dire, oui, pour ne pas être juste de protection, mais réellement d'accompagnement, doit pouvoir envisager la sortie du Eved de son registre. Hein, un peu comme quelqu'un qui disait un bon maître, oui, c'est quelqu'un qui sait amener les élèves à n'avoir plus besoin de lui. C'est-à-dire un peu dans ce registre-là. Oui. Oui. D'autres questions? Oui, allez-y.
Vous avez dit à un moment donné qu'on est aussi dans un système un peu utopique, parce que, imaginons que
l'hiver va se
libérer.
Oui. Non, il aurait d'autres types d'interlocuteurs, ça veut dire. Qu'est-ce que vous, non, dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il a un Eved, le maître.
Oui. Du fait qu'il y ait des Aravim.
Oui, c'est juste, c'est ça qu'on veut dire. C'est ça que l'Allemagne dénonce. C'est-à-dire que le maître, justement, hein, oui. Ou bien sa perspective est de libérer l'esclave, de l'aider au moins, et d'une manière ou d'une autre, ça va passer. Pour moi, c'est un problème de perspective dans la relation. Ou bien non. Et dans ce cas-là, c'est clair que quelle que soit la gentillesse ou le souci qu'il a du Eved, inconsciemment au moins, si ce n'est pas carrément consciemment, il participe de l'asservissement. Ah oui, ça doit être relayé par le maître. Mais il me semble le point de départ, c'est le Eved, il faut lui apprendre. Mais.
Oui.
Oui, oui.
Aujourd'hui, les gens vendent leur temps.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça n'existe pas?
Non, on ne va pas imaginer ça du jour au lendemain. Mais on peut avancer. De toute façon, là-dedans, le système global, il est ce qu'il est. Le problème, c'est chacun, chaque juif, oui, comment il va se construire? Et comment le patron ou celui qui le côtoie peut l'aider? Il ne faut surtout pas oublier que et le patron et l'esclave peuvent avoir un maître, peuvent avoir un limoud, peuvent avoir. Il y a d'autres structures que juste se face-à-face entre le patron et l'ouvrier, ou l'État alors qu'il légifère. Il y a d'autres lieux, justement, d'autres lieux pour apprendre, pour conquérir sa Géoula. Oui.
Par rapport à l'autre. L'autre est un homme qui a refusé le lien social. Quelqu'un qui a visiblement appelé Youk sur sa vie, elle a décidé de se mettre en retrait de certaines lois qui lui sont données, et refusant. Se retrouve finalement dans cette situation où il doit se vendre. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler à ce moment-là de l'aliénation du travail et quelle est cette responsabilité de l'autre en tant que faisant partie de l'établissement et étant la Torah et d'une certaine façon cette responsabilité des patrons, entre guillemets, étant quelque chose de très 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 bizarre, finalement, puisqu'on ne voit pas vraiment, j'ai l'impression, dans la Torah, un plan social. Il n'y a pas de plan social.
Non,
il y a
un
rapport de Ani, Achir, peut-être, mais il n'y a pas de Tzedaka, mais il n'y a pas de loi du travail.
Non, ça relève de la malchoute, même voilà. La malchoute d'Israël. La Torah, elle s'occupe justement du chemin de chacun, du âme aussi, mais dans sa relation avec Hachem, justement du chemin de chérout de chacun. Ensuite, au niveau, disons, d'une société, compte tenu justement du fait que les gens ne sont pas tous au même point, qu'il y a des besoins, là, il y a une gestion, oui, on va dire ça c'est la malchoute. Oui. Mais, c'est ça que je voulais dire, il ne faut pas confondre le domaine de la malchoute, oui, le domaine, disons,
Oui, de l'État ou de la gestion collective, sociale aussi, d'autres plans, le politique, le social, c'est encore des points différents. Et le problème de la Géoula, du travail de chacun comme homme, donc qui est une existence singulière, et qui doit quelque part apprendre à se construire. Alors, celui, vous avez demandé celui qui est tombé, quel souci j'ai. Alors, dans la malroute, dans le social, on aura un certain souci de lui, de le protéger malgré tout, etc. Mais dans l'ordre de la Géoula, c'est ça que la Torah nous dit, il faut l'aider à faire ce véritable tchouva, en tout cas, il faut l'aider à se reconstruire. Le terme tchouva n'est évidemment pas en premier, mais c'est ça que ça veut dire. Il faut l'aider, il faut lui donner le moyen, l'accompagner. Et non, ça ne suffit pas juste de l'aider financièrement pour qu'il se rachète, pour que 6 mois après il se revende, parce que de toute façon il n'y arrivera pas ou il ne voudra même pas. Mais il s'agit d'essayer de l'accompagner, de lui permettre de faire tchouva, de lui donner les termes d'une reconstruction personnelle. Donc ne se soucie pas, voilà, c'est peut-être la manière. La relation personnelle, alors que ce sont de l'individu, ne relève pas du plan social. Le plan social, lui, s'occupe de la dignité de l'ensemble des travailleurs, de chacun de cet ensemble-là, mais pas de la construction de la personne. Ça, ce n'est pas le social. Le social s'occupe justement du côté garantie, droit du travail, on va dire. Un droit du travail, on ne peut pas demander aux ouvriers de faire n'importe quoi, etc. Comme vous voyez parfois des descriptions trop fortes, des travailleurs ouvriers, des conditions absolument. Il y a un droit du travail, des législations, mais ce n'est pas ça, à la limite, dont s'occupe la Torah, ni même les Chachamim dans la Gemara. Quand ils parlent de ça, il ne s'agit pas justement de social, mais c'est pour ça que les références sont tout le temps des références de Géoula, de faute ou de pas faute ou de Teshuva. Ce n'est pas du tout un langage social. C'est un autre registre complètement. Alors, effectivement, ces différents plans, comment ils se côtoient, mais en tout cas, là, il y a, on va dire, un plan sous-jacent, le premier, qui est le plan d'apprendre à l'homme, peut-être par le limon, par justement, en lui donnant des mots, par le fait qu'il comprenne aussi ce qu'on lui demande, qu'est-ce que ça signifie, de ne pas prendre des fautes chimiques, d'être capable de ça. Eh bien, il y a un plan, on va dire ici, de Avoda, c'est ça comme ça, de Avoda, pourtant ça veut dire ta chaîne, évidemment, de Avoda rituel. Et ça, c'est incontournable. C'est ça qu'on s'occupe de la Torah. La Torah ne s'occupe pas du social. Il ne faut pas confondre, parce que le sujet justement, c'est les rapports ouvriers, patrons, etc. On va vous parler de tout, sauf de ça. Au fait.
Attraper les poissons.
Est-ce que ça, vous considérez plus que c'est apprendre donc, à se rendre indépendant, donc autonome, donc à lui apprendre sa liberté? Ou est-ce que vous considérez plus que c'est de la purement de la formation, purement sociale en disant que finalement c'est une formation?
Non, on peut entendre. D'essayer, mais c'est une stratégie aussi, c'est pas simple, vous avez dit, tout le monde a relevé, il y a le côté de l'évêque, il y a le côté du patron, en fait il faut qu'il se rencontre, l'évêque n'a pas forcément envie, le patron pas non plus, il y a ici le terme de la révoute me paraît juste, une véritable révoute, il y a ici un problème d'engagement de l'un envers l'autre, mais c'est au long cours, ça se fait pas du jour au lendemain, de toute façon vous connaissez bien, il y a la paracha aussi du évêque qui au bout de 6 ans demande qu'à réfléchir son maître, elle va faire du moyen d'enfant pour jusqu'au Yovel, ça fait 50 ans, ça dépend quand est-ce que vient le Yovel, bah, tu auras bien compris que parfois le Yovel, il sera incurable.
Oui. De quelle année là-dessus?
Je crois qu'il y a une question avant.
Déjà, le fait de comparer bien que le roi Khaïm, donc entre l'esclave et le travailleur, moi je. Attends,
oui, de l'air, mais
attends,
yeah,
ouais. Merci là. Ouais. Deuxièmement, pour dire que la Torah ne parle pas. Une obligation pour la main de ton frère, des choix rares, je me souviens, en tout cas, auditeur que qui pour de vraiment
plus. Oui, oui, c'est pas facile. Il y a des divines.
Tout ce livre est rempli d'alakhot sur le travail.
Il y a des alakhot sur le travail, mais ce que je veux dire, c'est le social. Il y a alakhot sur le travail. Les alakhot sur le travail sont un petit peu comme ces alakhot qu'on voit. Et il y a un souci de ne pas voler. Il y a un souci ici de ne pas voler, d'aider l'autre à se libérer. Ça n'est pas une gestion des rapports sociaux, c'est un véritable engagement, voyez, personnel, voyez, des dignes parents. Vous savez que l'interdit de ribite, c'est un interdit individuel. Si vous prêtez vous de l'argent à un juif, alors il y a un interdit minatora de lui prêter un tel. C'est une relation personnelle. Il y a un problème de relation personnelle. Si c'est une banque, même une banque juive, voyez, l'interdit n'est déjà plus de retard. Il y a un interdit de Ramadan. C'est-à-dire que l'inatora, puisqu'on n'est plus dans la relation de l'arrivée d'une personne à l'autre, on n'est plus dans le retard. Alors ça reste du Ramadan, parce que ça y ressemble. Alors ce que je veux dire sur le même plan, juste pour répondre, c'est qu'il y a bien des dinim. Il y a bien des dinim.
Juste.
C'est bon, je voudrais juste répondre. Il y a bien des dinim. Il y a bien des dinim. Il y a bien des dinim du travail. Mais le social, c'est une législation sociale pour 10 000 employés chez Renault, je ne sais pas où, mais, oui, c'est autre chose. Ici, il y a le droit du travail, l'inspection du travail, il y a des tribunaux. Ici, il y a un problème, le patron, un homme face à un autre homme. Comment cet homme-là se comporte par rapport à l'autre? Est-ce qu'il l'a servi? Est-ce qu'il l'aliène? Est-ce qu'au contraire, il lui ouvre des portes? Quelle obligation j'ai? Et les référents, ce que j'appelle ici les référents, ce sont des lois sociales, que tu peux mettre un adjectif, mais ce n'est pas le même registre. Le souci n'est pas le même. Il y a un souci d'un homme face à l'autre. Dès lors qu'il y a des structures impersonnelles, oui, dès lors qu'il y a une loi d'État, alors on est dans le social, on n'est plus dans le digne Torah. C'est un autre registre. Et ces lois peuvent répondre à d'autres.
On me demande de ne pas trop intervenir, alors
non,
moi je.
Oui, allez-y, allez-y. Non, moi j'ai pas demandé de ne pas intervenir.
Toute la journée, mais non. On me demande.
Allez-y,
pas
allez-y. Non, allez-y.
voilà. Je suis désolé, les lois du pays où on vit déjà pour les faire respecter.
Ah oui, c'est
un
problème.
Fort. Deuxièmement, les relations homme à homme, c'est Ben Adam Lachavero fait plein la Torah, des djinns, des alakhot.
Oui, non, mais ça
fait juste. De dire que c'est fou, c'est des valeurs comme ça, non. Il y a des alakhot, déjà respectons les alakhot, et après, là,
dans le fait. Non, mais ce que je vais dire, c'est que, oui, ici, le souci, c'est vrai. Dans un droit ordinaire du travail, voilà, il faut se soucier de la liberté, de la dignité, de point. Et on a fait. Bien la Gemara, il dit oui, attends, la dignité c'est bien, mais quel mépris se cache derrière ça? S'il faut commencer avec ça, il y a moi dit si, commençons avec ça. C'est juste ça que je veux dire. C'est que les perspectives ne sont pas les mêmes. Il y a un niveau où on peut avoir un slogan, on connaît les livres, on connaît Adam Yatsmo, ce n'est qu'un slogan, dès lors, oui, tant que derrière ça, on n'a pas aperçu, on n'a pas été vigilant à dire mais derrière la protection se cache le mépris. Et là, on n'a encore rien fait. Donc c'est ça que je vais dire. Or, dans le social, on ne va pas forcément aller jusqu'au bout de la réroute. On ne va pas forcément jusqu'au bout de la réroute, pas jusqu'au bout de la Géoula. On a Sakhir Votoshab, là, comme vous le savez, Sakhir Votoshab, c'est un commerçant du coin de la rue, il a aussi ses droits, il y a aussi des législations pour les commerçants, pour le commerce, pour la concurrence et tout ça. Très bien. C'est Sakhir Votoshab. Il ne mange pas du Pessah. Nous, on ne s'arrête pas là. Oui. Et dans les relations entre un homme et un autre homme juif, il y a toujours cet arrière-plan qui va jouer, qui va donner sa tonalité à la halakha, qui est quelle est réellement l'obligation d'homme à homme. D'homme à homme. Quand on est dans le social, ce n'est pas une relation d'homme à homme, c'est une garantie générale des droits des travailleurs. Il faut aussi ce genre d'organisation. Puisqu'il y a des masses de travailleurs, il faut bien que l'État ou à niveau général, on donne une loi. Et la relation d'homme à homme, la libération de chacun de ces hommes, ça c'est la préoccupation de la Gemara. Il faut juste comprendre, oui, que le type de préoccupation n'est pas le même, et en réalité c'est très juste la préoccupation de la Gemara, parce qu'on sait très bien, oui, on sait très bien que un rapport comme ça de surprotection, oui, cache un rapport de mépris. Oui, et ça, le social ne s'en occupe pas. Résultat, vous avez des gens qui sont protégés, oui, mais qui n'arrivent pas à vivre quand même.
Vraiment qui vis-à-vis de la personne qu'on en face de soi, pour laquelle on a un engagement.
droit de social, mais aussi gère la relation d'homme à homme. Donc, ne pas aider, ne pas humilier, déterminer la Torah, ne pas.
Oui, mais personne ne mais ça c'est sûr.
Ça, c'est aussi des lois de la Torah.
Oui, mais ça me dit le contraire.
Mais bien, oui, bien, bien comprendre. Oui. De quelle aliénation on veut se libérer. Il m'a semblé qu'on parlait d'une aliénation et d'une autre. L'aliénation du travail et l'aliénation vis-à-vis d'un statut d'infériorité au regard d'une manière de vivre pleinement son statut de juif. Alors, sur la première aliénation, a priori, si je n'étais pas venu vous écouter, je me serais dit le meilleur moyen de s'en libérer, c'est le Shabbat. Alors la question, c'est ce qui est naïf, hein, parce que je ne connais rien de tout ça, c'est, me semble-t-il, l'esclave est tenu de respecter le Shabbat.
Oui.
Donc, de ce moment-là, si l'aliénation dont on parle est une aliénation au regard de l'aliénation du travail, si on en est là, pour le moment, à ce stade, est-ce que ce n'est pas déjà un début de libération, dans un processus de libération de cette aliénation? Pour ne pas aller jusqu'à dire. Et c'est un peu une question que c'est un processus d'enclenchement de libération qui va au-delà même de la seule libération du travail, mais qui serait quelque chose de l'ordre peut-être du Pessah. Alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui différencie précisément la libération qu'on pourrait, par laquelle on pourrait accéder par le respect du Shabbat et la libération qu'on pourrait par la respect du Pessah. Et et l'objection qui n'en est pas, c'est un peu recherche de compréhension, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans la Gemara un souci de faire prévoir le rapport entre l'esclave et son maître, comme un rapport d'homme à homme précisément, lorsque on exige de la part du maître, non pas simplement de s'acquitter dignement de son devoir de nourriture, de logis, etc., mais de s'acquitter à la mesure qui est la sienne, en rehaussant le niveau de standing de son esclave à son niveau. Est-ce qu'on peut pas être amené à dire que du coup il n'y a pas une simple relation de maître et esclave, mais véritablement une relation d'homme à homme, jusqu'à aller à se demander si la manière dont le maître se nourrit, la manière dont le maître dort, la manière dont il se comporte, n'est pas également, d'une certaine affirmation, le reflet de la manière dont il se comporte et dont il est homme, dont il habite le monde.
Alors,
donc il y a deux questions.
Oui, il y a deux questions. Alors, on va commencer par la seconde.
Oui.
La relation, la manière d'être homme, on a dit, ce que vous dites est juste, mais la morale seconde, ce n'est pas suffisant. Il s'agit aussi de lui donner au Eved, d'ouvrir une perspective au Eved, oui, on n'oublie pas que ça part aussi de lui, d'être réellement comme moi, pas seulement de manger comme moi, de s'habiller comme moi, oui, mais d'être un homme libre comme moi. Et pour, disons, la première question, il y a deux aliénations. Il y a, disons, l'aliénation par le travail, ça c'est ce dont on a parlé la semaine dernière, il me semble, quand on parlait de Hamal, Adam, Adam, Lulad, etc. Donc je n'ai pas parlé de moi, oui. Mais ici, il y a un autre aspect, une autre aliénation que le travail lui-même, si tant est que c'est une aliénation, oui. Il y a une aliénation dans la relation entre l'ouvrier, l'évêque, l'ouvrier, évidemment avec des nuances, oui, fortes nuances, mais quand même, il y a une aliénation dans la relation. Oui, entre un homme qui est le patron, oui, et un autre homme, oui, qui est moins libre face à cet homme, qui est moins libre que l'autre. Il est moins libre. Le Eved, le Sahir, est moins libre, oui, donc dans un rapport discrédité, qu'on le veuille ou non, face à l'autre homme tant qu'il n'a pas, qu'on n'a pas aidé à reconstruire sa liberté. Alors, l'utopie, c'est de croire qu'on va rendre tout le monde libre au même plan. On ne donne pas dans cette utopie, mais elle nous rappelle simplement qu'on n'est en tout cas pas quitte, oui, simplement en lui faisant manger, dans mon rapport homme à homme, comme vous dites, en lui faisant manger la même chose que moi, c'est déjà bien, c'est déjà un travail, mais on n'est pas quitte. On n'est pas quitte, oui, tant que je ne l'accrédite pas, tant que je ne lui donne pas le crédit de pouvoir être libre, d'être libéré comme moi-même. Oui, de pouvoir, pardon, puisqu'on a parlé de Pessoa, par exemple, le Maharal explique très bien pour le troisième coffre, celui de Goethe. Oui, c'est que après que les Juifs soient sortis justement de l'esclavage d'Égypte, qu'ils aient cessé d'être esclaves au sens strict, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus travailler, avoir de lourdes charges, oui, il y avait un premier temps, un deuxième temps de l'esclavage, un troisième temps qui était simplement de n'être plus tachat roshut mitzrayim. Avant, ils étaient libres, mais c'était un peu comme le sahir goy pour nous, ils étaient des sahirs juifs chez les Égyptiens, c'est-à-dire qu'ils étaient libres de leur temps, ils avaient récupéré ça à cause des makotes. Mais ils étaient encore en Égypte, ils étaient encore tachat roshut mitzrayim. Il fallait encore qu'ils reconquièrent leur identité, individuelle et collective au niveau du monde. C'est le troisième et le quatrième coffre, c'est reconquérir leur identité propre et collective. Oui, donc, sortir n'est plus tachat roshut mitzrayim. Il y a donc une notion d'être tachat roshut, d'être sous l'emprise, le regard, la mainmise d'une autre personne. Ça, c'est une réalité très forte, une réalité très forte. Donc on n'a pas d'autre issue que d'en sortir, d'essayer d'en sortir, d'aider l'autre à s'en sortir. C'est ça la véritable obligation. Tant que l'autre est sous mon reshoot, il est, même s'il donne le meilleur de mes bordeaux, il est quelque part discrédité de fait. Oui. Et d'abord, si vous voulez, et lucide, au moins déjà qu'on soit lucide et qu'on voit ce qu'on peut faire, on va dire comme ça. Qu'on voit ce qu'on peut faire, ce que l'un et l'autre peuvent faire, et que les deux sachent ce que signifie le troisième coffre. Oui, du CDR, on va dire ça comme ça. Que et le évêque et le maître sachent tous deux ce que veut dire le troisième et même le quatrième, pour tout l'âme d'Israël, le troisième et quatrième cos du CDR, qu'ils le sachent, oui, et qu'ils en tirent les conséquences, qu'ils peuvent, qu'ils ont la force d'en tirer chacun dans son distance. L'aliénation du travail, c'était, disons, il me semble, le cours de la semaine dernière, ça je n'ai pas parlé. Oui.
Soi-disant liberté par l'économique et l'économique qui passe par la profusion.
Oui.
fait. Hein. Il gère son plan, ça veut dire qu'en gros, il produit un truc par mois. C'est le contraire du corps, de la grande liberté économique, et c'est la totalité de la liberté de son temps. Or, l'économique, c'est le contraire. C'est le sahir qui vend son temps et qui va produire. Ce que propose Krajberoche, ce serait précisément des possibilités de gains qui ne sont en réalité possibles que par des temps de travail, un travail qui passe par la vente de son temps. Ce n'est pas possible autrement. La liberté des échanges, ce type d'abondance-là, c'est précisément celui qui va induire. Et alors, est-ce que ça, c'est pas justement ce à quoi aboutissent les deux messages que donne la Guémara? En fait, la Guémara, elle donne deux messages. Elle en donne un pour Evel. Ce qui est formidable, c'est que j'avais jamais entendu cette distinction-là. Ce qu'on dit finalement au Evel, c'est ne crois pas que ton statut de Evel, c'est d'abord ta souffrance. Alors que voilà toutes les prescriptions qui sont données à ton maître pour que tu vives tranquillement sur ton oreiller avec des petits clapins. Donc, Evel, c'est pas souffrir. Ton maître a des règles pour respecter la vie. Mais ton statut d'esclave, c'est précisément la vente de ton travail, le fait que ton temps n'est plus à toi, que l'infinité de ton temps est devenue finie et adjugée à quelqu'un d'autre.
Oui.
Donc ça, c'est le message. Et on dit donc à l'évêque, ne crois pas que ce qui compose ta jeunesse. Et donc, ne t'abrite pas derrière ton travail. Ne dis pas finalement que mon travail, c'est ce qui va être ma raison d'être. Ce n'est pas à cause du travail, c'est à cause de la vente de ton temps que tu as perdu ce que tu es. Et au maître, alors on dirait finalement la même chose. Au maître, on lui dit, tu as du travail à faire, il y a toujours du travail à faire à la maison. Donc tu as besoin d'un évêque. Mais n'oublie pas que quelles que soient les conditions de dignité que tu donneras à ton évêque, là où tu dois te poser la question, c'est est-ce que ce que je fais en tant que juif, c'est valoriser le travail, et puisque je valorise le travail, j'ai besoin d'un évêque pour faire mon travail qui est infini. Donc je vais finalement m'adjuger le travail infini d'un autre être humain, d'un autre juif, et voilà de quoi je vais priver, je le prive de faire ça. Où est-ce que tu arriveras à sortir de cette valeur de travail et tu te rappelleras que c'est ailleurs, on essaie de faire d'arrêter de s'abriter, les deux peuvent s'abriter derrière le travail pour se donner une raison d'exister,
oui.
Et aux deux, ou de faire comme ils font.
Oui, c'est juste, dans ce sens-là, et vous avez bien fait de remarquer que le système, disons, libre de Achashverosh cache, on peut générer un asservissement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'autres mots que l'économique, s'il n'y a pas des mots véritables de réroute, on engendre l'infini, oui, on engendre effectivement un asservissement. Donc il faut des mots, oui, on va dire comme ça, il faut des mots, c'était un petit peu aussi le projet de Pau la semaine dernière, d'après ce que j'ai entendu. Hein, Adam le Amad et Oulad, il y a quand même un chat fort de moi qui ne sait pas la bracha, c'est la parole, et même plus la parole de Torah. Mais le travail de l'homme, on va dire comme ça, si l'homme veut se sortir du travail, comme vous voulez dire, de l'infini du travail, il lui faut atteindre l'infini des mots de la Torah. C'est ça son basculement. Il y a, on a aussi attention à l'utopie, mais en tout cas, il y a, autant que faire se peut, un basculement opéré vers les mots, et vers les mots de la Torah, notamment, ou même simplement les mots de la Sira, dans un premier temps, qui permet de ne pas être sous l'emprise, oui, du seul travail devenant infini, occupant tout l'espace de l'homme.
C'est donc une critique sociale que vous faites du statut donné à l'esclave dans la Torah, qui ne prévoit rien comme obligation pour le maître, qui ne prévoit rien en tant que tel pour l'esclave, pour l'introduire dans cette reconstruction spirituelle.
La Gemara a quand même dit, mais de manière suivie, c'est toujours dit dans la Hachoufi, dit il faut l'aider à se libérer, alors, conséquence, on l'aide à se libérer au plus bas prix. Évidemment, oui, au plus bas prix à l'avantage des maîtres. Mais c'est une manière de faire allusion. C'est une manière de dire, attention, il y a une perspective, c'est qu'il ne soit plus ton évêque. Là-dessus, tu comprends. C'est-à-dire, il y a, oui, un souci dans le Mara, qui dit de manière ténue au niveau de la Lara, oui, mais qui vient quand même dire ceci. Il dit, il faut que tu aies un souci, que finalement, il ne soit plus ni évêque, ni même que Sahir, comme un Sahir, oui, mais qu'il puisse se libérer, conquérir une liberté, petit à petit, chacun arrivant jusqu'où il peut là-dedans. Oui, mais ça doit être la perspective du patron, comme du évêque de départ, aussi la perspective du patron, c'était votre remarque, ça doit être aussi la perspective du patron, mais c'est pas forcément, on n'a pas demandé au patron de user de pédagogie pour apprendre l'évêque. Peut-être l'évêque peut aller voir, c'est un juif aussi, il peut aller aussi au Beit HaMidrash, peut-être il a peut-être une heure, peut-être le patron lui laisse une heure pour aller au Beit HaMidrash, c'est déjà, j'en sais rien, oui, c'est déjà énorme, oui, ça lui donne le moyen, ça équivaut, alors ça il le fait lui-même, il n'est pas à la fin obligé de le faire. Il peut comprendre ça équivaut bien au fait de lui faciliter son rachat. Oui,
C'est une manière de traduire, mais ça, l'Alaha n'impose pas cette traduction, mais ça serait dans l'idée de la chose, si vous voulez, que le patron arrive à traduire qu'il faut laisser ce Yéved aller étudier, mais tu vois, peut-être que l'Yéved n'a pas envie du tout, peut-être qu'il se réfugie derrière son travail.
Moi, c'est comme ça d'ailleurs que je comprends qu'on la connaît Eben Ibri, qu'elle connaît Adon Hatzbo, justement parce qu'il y a cette interdépendance entre l'un et l'autre. Alors on peut la situer au niveau du travail, ça c'est vrai, je veux dire, tous les ouvriers, tous les patrons, c'est une interdépendance évidente, mais sur le plan identitaire, pour aller en amont de l'économique, je pense que c'est ça ce que vous avez appelé le slogan. Cette interdépendance, c'est-à-dire cette interresponsabilité.
Sortir du slogan,
oui.
Ne plus que ce soit un slogan, mais une vérité.
Bien.
Voilà. Donc, passer du slogan à une vérité. Oui.
Voilà.
Vous voulez dire ?
Oui, dans le texte, il semble que la Géoula,
oui.
On parle concerne aussi le Beth Lochavim.
Non, et on a voulu dire la Géoula, on a dit voilà, il faut lui donner une Géoula, le mot Géoula est lâché. On leur demande, mais peut-être c'est seulement quand vraiment le juif en question est vendu à un gol. Là, il est vraiment dans les mains de gens qui ne sont même pas juifs. Alors peut-être là, il faut faire un effort. Les crovines, ça peut être les crovines qui doivent le libérer, il va faire un effort. Mais s'il est aux mains d'un autre juif, peut-être là, on ne fait rien. Il faut que la Torah aille plus loin pour dire non, même dans les mains d'un juif, on ne va pas le laisser à sa vie. L'idée, c'est bien de sortir l'esclave, non pas seulement des mains du gol, mais simplement des mains d'un maître, quel qu'il soit le juif, de le libérer libre.
Mais
un idolâtre
chez un
idolâtre
employé ou esclave, lui,
on... Là, on n'a pas d'obligation, on est au Rêve, on n'est pas à me soumettre que ça, on n'est pas à Rêve, il n'y a pas la Réhout dont on parlait, je ne suis pas à Rêve de lui, c'est au contraire, c'est un évêque qui n'a dit, s'il est vendu, il est vendu. De nos jours, il n'y a plus d'esclave, donc il faut. Mais on a un sahir, oui, et je vois qu'on côtoie sans arrêt la notion sahir et la notion de l'évêque se côtoient. Pas évident dans la même chose, mais quand même, quelqu'un dont le temps est vendu, comme vous avez bien dit à un moment, qui a pu un rapport d'infini, ouais, d'infini à son temps, d'infini à sa personne,
c'est pas la même chose. En l'absence d'obligation formellement prescrite pour le maître de construire une façon ou d'une autre, comment
c'est ça que j'appelle ici, ce que les lois, on va appeler ça, le social,
oui.
Ce qui relève de la malroute. La Torah, elle vise, elle procède par révèle. Ça veut dire que ça va
d'accord.
Pas bien.
Non, mais ma question, c'était comment vous allez percevoir, alors, enfin, est-ce que c'est pas criminel que d'envisager une libération, sans se poser la question si finalement le travail s'est effectivement réalisé par le maître.
Ah oui, mais ça par contre, ça c'est la Torah qui dit que s'il veut rester, on lui passe la Torah, il peut rester.
Non, mais c'est pas la solution de principe.
Non, ce que je veux dire par ça, c'est que ce que vous demandez, c'est il n'est pas forcément mûr. Alors, la Torah fait allusion à ça. C'est pas si simple que ça, oui, de lui faire acquérir son autre avis, sa cellule-là. Et donc la Torah a prévu une manière de dire la chose. Il faut toujours savoir que les inhibes de la Torah ne doivent pas être, même si c'est lié à la chose, de le faire. Mais elles ont beaucoup valeur de remède. Ça fait allusion à une certaine posture. Il y a un ram très intéressant que vous allez voir dans le Drashot Aram, c'est le Perek 11, qui dit très clairement en long et en large qu'en termes d'efficacité de loi, de code civil, la Torah n'est pas du tout un modèle.
D'accord.
Elle vise autre chose. Elle vise à faire comprendre quelque chose dans la relation de responsabilité de la révoute entre un homme et un autre, ou bien dans sa relation avec l'homme. Ils sont pour ce qui est Ben Al-Ravero, dans la révoute, oui, dans le lien d'un homme, mais il faut comprendre ici un émettre de la relation. Mais la gestion, l'efficacité, oui, la Torah ne s'en occupe pas, mais quand on se soucie de l'efficacité, du grand nombre d'organisations, on perd en vérité. On perd en vérité. La Torah elle a un souci ici de faire comprendre la vérité des relations. Maintenant, la gestion à grande échelle, oui, la Torah ne s'en soucie pas. Ce sont deux soucis différents. Ce sont deux soucis différents.
C'est un peu étonnant ce que vous dites là. Oui. Que la Torah se soucie pas d'efficacité.
Non, c'est effectivement, c'est d'efficacité à grande échelle.
D'un principe de dignité, mais pas d'un principe d'efficacité.
Par exemple,
c'est fort, quoi.
Alors, je vais vous donner un exemple, je vais illustrer comme ça. Ça veut dire, où est-ce qu'on voit ça? Pour donner un exemple très clair, il dit, par exemple, dans les condamnations pour meurtre, le Bédine a des exigences terribles. On condamne presque jamais un meurtrier. On n'aura pas les preuves, il n'y aura pas les témoins, ils vont parler, ils vont avoir une petite contradiction sur un chouïa, on ne va pas condamner. C'est pas efficace. vous avez, alors avec ça, ça
non,
encore,
c'est
un peu.
Ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace.
Non,
ce que vous dites, ça veut pas dire que ce n'est pas
efficace. Non, dans le sens où. Oui,
définissez autrement le terme d'efficacité.
Non, ce que je veux dire, c'est que ce qui va être visé, c'est un rapport de vérité. Oui. Dans ce rapport de vérité, il y a le fait qu'on ne juge pas toujours le meurtrier parce qu'il y a un Dieu dans le ciel. Mais ça, l'efficacité sociale, oui, refuse ça. Alors, il y a des dynimes du Meller. Le Meller peut intervenir. Oui. Le Meller peut, s'il y a une espèce de mafia ou autre, peut faire condamner, lancer un coup de filet, mettre en prison, peut-être même plus, sans avoir forcément deux témoins avec un travail et tout machin. Oui, c'est un autre registre. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, il faut intervenir. C'est presque l'armée, quoi, ça relève de l'État. Oui, de la base.
Un bédine tranche en matière sociale.
Oui, mais encore une fois,
il y a
la chose.
Il y a un principe de Torah, on doit subsister.
Mais encore une fois, les halakhot sont toujours sur ce mode-là. C'est quelle vérité j'ai à entendre là-dedans. Il dit oui, mais alors la vérité, c'est quoi? C'est de faire en sorte que quelqu'un puisse faire tchouva. Oula. Donc, faire en sorte, le Bedin a pour mission de faire comprendre à un homme, oui, quelle est sa faute, et comment il peut en revenir, qui doit faire tchouva. Un tribunal ne s'occupe pas de ça. Un tribunal, le code civil ne s'occupe pas du tout de ça. Il s'occupe de faire en sorte que les assassins soient condamnés, un point c'est tout, et c'est avec des présomptions. On a besoin d'avoir un tempo. C'est un autre souci, ce que j'appelle le souci d'efficacité, c'est le souci de fonctionnement de la société. Fonctionnement social, de protection sociale, ça n'est pas un souci de faire passer une vérité, c'est tout à fait un autre souci. Ce qui fait qu'on peut avoir, le Rav le dit bien, un double registre, le dit le Bedin n'a pas le droit de faire certaines choses, n'a pas le droit de condamner de certaines manières, le roi aura le droit, de manière ponctuelle, il ne peut pas se substituer au Bedin. Il y a donc deux registres différents, de manière ponctuelle, en cas d'urgence, en cas de nécessité absolue, le roi peut juger, c'est un genre de jugement d'exception, que la malroute, le pouvoir politique à disposition. Le Bedin, lui, il relâche 99% des accusés, il ne condamnera pas.
Excusez-moi, il y a une Gmara, Yehuda ben Théma, il a été exécuté, c'est pas le roi, on voit dans la Gmara Sanhedrin que le Bedin peut faire exécuter, pour donner un exemple, dans un moment exceptionnel, par exemple, lui aussi, comme le roi,
oui,
prend des mesures exceptionnelles.
Alors, Rav dit, mais ça, le Bedin, c'est Midin Malroute. Le Bedin peut lui-même, s'il n'y a pas d'autre autorité, prendre sur lui, mais c'est un jugement d'exception, il peut juger sur le mode de la malroute, mais ça n'est pas sa vocation. Il peut le faire.
Au niveau national, ça peut être, mais aussi au niveau individuel,
oui,
ça
oui.
peut être un rachneur.
Mais
par exemple, si un individu, au travers de la loi, se comporte, par exemple, dans le domaine du travail, par exemple, on va imaginer une almana, parce que le rappel travail, on parle, donc d'une dame veuve qui est dans une situation très difficile, si quelqu'un se comporte de manière dévoilée, très cruelle, à qui à la fin, et bien le Bedin, il y a une halakha claire de Rachneor qui est le roi scolaire qui dit que le Bedin a le droit d'inverser complètement la vapeur et de lui donner complètement tort.
Oui, mais c'est des jugements d'exception, ça veut dire qu'on reste encore.
On a tous les jours.
Oui, mais il y a beaucoup de registres, il y a beaucoup de registres, il y a ce qu'on appelle le din ordinaire, il y a Oracha à du Bedin, il y a le din de Mako. Ce que je veux dire, c'est que la vocation du Bedin, oui, n'est pas celle-là, mais il peut être amené, parce qu'il y a une situation tout à fait particulière, tout à fait exceptionnelle, effectivement. À casser les murs.
Je suis dans le cas, il n'y a que des situations exceptionnelles.
Oui,
je peux vous le dire.
Oui,
et donc, si on voit les choses autrement, c'est malheureux.
Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que.
Le cas, c'est des cas d'école. Les
oui,
cas de confidentialité, ils n'arrivent presque jamais les cas idéaux.
Ouais. Seulement, il faut faire attention. Hein, oui. Le véritable enjeu, c'est comment les gens vont traduire. Quand vous arrivez à un niveau de Bedin, oui, c'est déjà que vous avez des gens qui sont sourds. Ça aussi, il faut le savoir. Vous arrivez à un niveau de contentieux. C'est-à-dire. Il y a un autre travail que seulement ouais, le contentieux Bedin. C'est complexe tout ça. Vous voyez, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un souci de vérité. Ouais. Le règlement des litiges, c'est un problème en soi. Mais notre problème, c'est de savoir aussi, avant le règlement des litiges, de savoir quelles sont mes obligations. Quelles sont mes maîtres, ouais. Quelles sont mes obligations. Quand il y a litige, ouais, alors ça va aller au Bedin. Et le Bedin, il est possède à Bedin Torah. Ouais. C'est particulier le din Torah, ça va être aussi un enseignement de vérité, oui, plus qu'une, ce que j'appellerais une loi sociale avec une efficacité sociale absolue. Comme dit, pour les meurtriers ou comme ça, on n'a pas une protection, on n'a pas une régression de la délinquance avec, si on est comme le dit, la régression de la délinquance, non. Par contre, ça va se situer dans un autre plan, ça, je veux dire. Il y a d'autres plans, par contre. Si vous entendez la vérité de ce qui est dit, ça vous oblige à déployer la révolte, un autre type de responsabilité. Il y a d'autres plans dans lesquels on se déploie, oui, dans lesquels on se déploie, et c'est ça qu'il faut entendre ici. Quand, à part la halakha qu'il faut l'aider à se racheter au plus bas prix, ça c'est très ponctuel, ça je veux dire, très ponctuel, mais qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire d'abord qu'il faut faciliter sa reconstruction, le fait de se réappartenir. Ça, c'est pas à la rique au sens étroit, c'est une révoute. Donc il faut passer d'un plan étroit, oui, que la halakha va indiquer, oui, à ce que ça veut dire, à ce que ça implique. Mais au niveau de l'application de la halakha, oui, en termes de conflit ou de, d'application, d'exécution, oui, la halakha, c'est pas si simple que ça. Alors, effectivement, vous avez raison par contre de dire que Dayan dit de ce mot-là, un Raham dit de ce mot, oui, doit aussi être capable, oui, de bouger un peu les murs.
On retient que le blanc n'a pas lieu d'être.
Mais il y a quand même un côté.
Tu peux appuyer sur un ordinateur
et tout. On ne bouge pas les murs pour chaque problème, chaque petit conflit social. C'est vraiment quand il y a quelque chose qui. Alors, maintenant, le quotidien, le pain quotidien, oui, il y a un limout, si vous voulez, il y a un enseignement, il y a quelque chose à apprendre des têtes d'Almara. Et il y a la gestion sociale, c'est un problème. Oui.
Donc le 6 mai, mardi 6 mai.